أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده على نعمه وأشكره على مننه خلق عباده وأنعم عليهم بالنعم وأغدق عليهم من آلائه ما لا عد لها ولا حصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله لنشر السلام بين الناس فكان من أحسن ما يقال إذا التقى المسلم بالمسلم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأسبوع ويبارك فينا وفي جهودنا. Toutes les louanges sont dues à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre sans modèle préétabli, qui a créé l'homme pour son amour et sa miséricorde, pour qu'il accomplisse une mission noble sur terre, celle de propager la paix, pour qu'en contrepartie il revienne habiter la cité de la paix d'où il a été expulsé. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sa miséricorde pour toute la créature. Puisse Allah répandre sa bénédiction et sa prière sur lui, sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour des comptes. Puisse Allah faire que nous tous nous soyons parmi ces gens. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de sœurs parmi nous jusque-là, mais nous espérons qu'elles vont elles auront leur présence, inshallah. C'est vraiment un réel plaisir de se sentir ce matin béni parmi vous, dans un cadre aussi béni, car nous vivons une turbulence, un monde secoué par l'anxiété, l'angoisse et ce qu'on a communément appelé le terrorisme. Alors, ma conférence va s'étaler sur plusieurs points. D'abord, une brève définition de la paix, une comparaison entre notre conception en tant que musulmans et celle des autres, et aussi les dimensions de cette paix et les bases sur lesquelles, en tout cas, elle peut être fondée. Car beaucoup parlent aujourd'hui de paix, alors qu'en réalité, ils produisent plus d'armes alors que ce qu'ils prononcent comme mots. Si la paix est devenue aujourd'hui une denrée très rare, c'est dû au fait qu'il n'y a pas effectivement de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique réelle. Car ceux qui prônent la paix aujourd'hui sont ceux-là même qui fabriquent les armes. Et malgré l'attribution du prix Nobel de la paix à M. Obama, qui a voulu restreindre un peu le port, cadrer un peu le port des armes aux États-Unis, il a fini son mandat sans pourtant avoir gain de cause. C'est-à-dire que on parle à la Maison Blanche, on parle de paix, mais en réalité, on produit les armes qui vont contribuer à détruire cette paix-là. C'est pourquoi il n'y a pas de volonté politique. Alors, donc ça c'est la première cause qui fait que effectivement il est très très difficile pour ce monde-là de connaître la paix véritable. Alors, regardez même la force G5 qui est basé actuellement au Mali. C'est vrai, cette force-là, il y a des hommes qui se sont mobilisés, mais effectivement, ils ont besoin de plus de mobilisation de ressources financières et d'armement. C'est pourquoi nous, à notre venue à Bobo-Dioulasso ici, nous avons rencontré tout un contingent, plus d'une presque une quarantaine de chars comme ça, en destination de la capitale Ouagadougou. Alors nous, on parle de paix, mais il y a des chars qui circulent quelque part pour aller préparer la guerre. Il n'y a pas de réelle volonté politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la paix si toutefois, effectivement, tel est l'élan en tout cas que l'homme prend. Secondo, ce qui fait que il y a cette contradiction entre la parole et l'acte, c'est l'égoïsme des intérêts. On va laisser jusqu'à ce que le frère l'a fini, puisque tous les regards là se fixent vers lui. Si tu finis, on commence. Voilà, c'est fini, c'est ok. Voilà. Donc j'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de volonté réelle, il n'y a pas de volonté politique. Alors pour mettre fin en tout cas à cet état d'inquiétude qui menace l'avenir de cette planète-là. Et secondo, c'est l'égoïsme des intérêts. Vous savez que les intérêts sont contradictoires. Aujourd'hui, ce n'est pas la paix qu'on veut, mais plutôt on protège les intérêts. La France n'a pas d'amis, mais la France a des intérêts. Les intérêts sont contradictoires dans la plupart des cas. C'est pourquoi le coup d'État ne peut jamais finir tant que l'homme trouvera effectivement que les régimes sur place ne font pas leur affaire. Donc il faut procéder obligatoirement. Il faut toujours, si on ne fait pas son affaire, il faut procéder toujours au changement de régime, même par les armes. Donc c'est dire que cet égoïsme-là, alors si on s'est attaqué à la Libye, tout simplement c'est pour protéger un intérêt. Si on s'est attaqué à la Syrie, tout simplement c'est pour protéger un intérêt. La destruction de l'Irak, et j'en passe. C'est dire que cet égoïsme-là qui est là, pour ceux qui prônent la paix, alors qu'effectivement, ils ne luttent que pour protéger les intérêts, alors cela vraiment nous va paraître pour nous une contradiction. Troisièmement, alors, ce qui montre effectivement que c'est la paix est devenue une denrée très rare. J'ai parlé de manque de volonté politique, j'ai parlé de la protection des intérêts. Et il y a aussi l'injustice. L'injustice, la politique de deux poids, deux mesures. Au moment où on fait pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'on arrête la guerre contre le Yémen, puisqu'il y a 10 000 victimes, il y a la crise humanitaire la plus grande au monde, d'après l'ONU, au même moment, on ne fait pas la même pression sur les belligérants en Syrie. Vous savez que depuis le 19 juin, il y a le sud de la Syrie qui est bombardé. Aujourd'hui, on compte plus de 350 000 réfugiés. De 19 aujourd'hui. 350 000 réfugiés avec plus de 150 morts civils. Donc, au moment où on fait pression sur les autres pour arrêter la guerre au Yémen, on ne fait pas la même pression sur... Parce qu'ici, alors, la guerre nous est défavorable. Parce que la victoire de l'Arabie Saoudite et de ses alliés au Yémen va empêcher les chiites de prendre le pouvoir là-bas et d'encercler le monde sunnite. Donc il faut faire pression, mentir. Il n'y a pas de qui. Il y a un ensemble de choses là. Soit tu es fermé, mais il y a des gens qui sont. Non. Parce que la guerre, la victoire des alliés, des coalisés au Yémen ne fait pas l'affaire de l'Occident. Donc il faut arrêter coûte que coûte cette guerre-là. Par contre, la victoire des Russes et du régime de Damas fait leur affaire. Donc on laisse passer ça. On ferme les yeux sur les demi-millions de morts en Syrie. Donc ça fait qu'il est très très difficile que le monde la vit aujourd'hui la paix. On a beau parler, sauf les religieux. Parce qu'hier on a entendu par la bouche de la délégation, représentante de la délégation du Mali, qu'actuellement le régime malien se fie entièrement aux religieux. On dit que même les forces étrangères sont venues pour sécuriser le Mali en vain. tout a été fait. Qu'aujourd'hui, ils ont confiance aux hommes religieux. Effectivement, c'est la religion qui peut détenir la seule vérité, qui peut amener la paix. Parce que la religion vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, l'homme, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de paix et de sécurité de l'IA en Afrique, il y a la CDAO. Toutes les forces là sont mobilisées. Il y a les beaux discours partout. Mais jamais la paix est introuvable. Puisque l'homme est égoïste. Puisque l'homme ne lutte que pour ses intérêts. Ton intérêt et le mien, forcément, ne sont pas les mêmes. Voilà, donc, c'est pourquoi la proposition de l'islam va être autrement. La proposition de la religion. Alors, c'est la religion qui va finir par prendre le dessus dans ce monde-là. Parce que toutes les mesures-là, tous les calculs de l'homme, alors, tout ce que l'homme va mettre sur place, en tout cas pour se sécuriser d'abord, pour sécuriser cette planète-là, pour son bien-être, tout cela va échouer. Et nous allons finalement faire recours à la religion. Combien j'étais ému hier nuit, on voit effectivement que le stade-là était plein de monde. Alors, ça m'est venu à l'idée tout de suite de faire la petite comparaison. Dire qu'il fait un moment à Bobo Dioulasso, pour avoir ce monde-là, il faut un certain d'Afrasta. Ou bien il faut les imbattables léopards, il faut Voltageaz, il faut les équipes comme les Syriens de Bobo Dioulasso, l'Isfran, les faux, pour mobiliser ce monde-là. Mais aujourd'hui, c'est la religion qui est en train de prendre des déchets. Ils sont tous disparus. Les chanteurs, là, où sont-ils? Les grands footballeurs de Bobo Dioulasso, là, qui battaient, qui prenaient toujours les trophées. La coupe de la Haute Volta, la coupe du Burkina Faso. Où sont ces gens-là actuellement? Ils ont tous péri. Et c'est la religion qui va finir par prendre le dessus. Alors, Amma Zaba de Fayad Habu, Jufa'an, Amma Mayanfa'ul Nasa, Fayam Koto Fil Ard. C'est ce qui va de l'intérêt de l'homme maintenant qui va rester dans ce bas monde-là. Donc, toutes les propositions faites par les hommes vont finir par se dissiper. Parce que l'homme est injuste. Et sa proposition aussi est injuste. L'homme est moins, sa proposition aussi est moins. Il faut imaginer de la sorte. Alors donc, c'est pour que ce matin-là, nous sommes là par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, et le message, c'est vraiment, par le biais des médias, vous allez diffuser largement ce message-là pour que les gens connaissent, comprennent effectivement que c'est dans la religion-là qu'existent les solutions. Alors, chers frères, qu'est-ce que la paix? La paix, nous allons dire tout de suite que la paix, c'est la cessation des hostilités et le retour des militaires dans les casernes. Alors, vous savez qu'en Occident, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'hostilité. Alors, ils ont cette maturité qui fait que tout de suite, les rébellions sont matées. Et les tentatives de sécession, comme a été le cas de la région de Basque et le cas de l'Espagne tout récemment, tout de suite, ils savent comment maîtriser la situation. Donc là-bas, il n'y a pas de conflit comme nous le connaissons dans notre sous-région. Il n'y a pas de conflit ouvert comme ça. Donc il y a toujours la cessation des hostilités et les militaires sont toujours dans les casernes. Mais nous pouvons considérer l'Europe, ou bien le monde civilisé là, comme le monde le plus inquiété. Ce monde-là, il y a plus de suicides en Europe dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Parce qu'ils n'ont pas de paix. Parce qu'ils ont concentré la paix là sur ce petit volet-là. Dire que quand il n'y a pas d'hostilité, quand les militaires sont dans les casernes et le pouvoir appartient aux civils, alhamdulillah, en ce moment, il y a la paix. Alors qu'en réalité, il y a une paix interne, il y a une paix immatérielle, il y a une paix, c'est-à-dire morale, il y a une paix spirituelle. Ce volet-là, alors la culture occidentale, en tout cas, ne connaît pas. Donc, il est du devoir maintenant de la religion de d'élucider cette vérité-là dans toutes ses dimensions. Donc, selon nous, la paix n'est pas seulement un comportement. Comme nous avons entendu aussi des propos d'un président défunt, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et nous allons commencer par la construction de la paix. La paix n'est pas seulement un mot, mais c'est d'abord une construction. Une construction. La paix, ensuite, est un comportement. Et les mots ne contribuent que dans cette construction-là. C'est ainsi que nous allons développer le thème-là, Inch'Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah. Non. La paix est une construction. Commençons par ça. Alors, nous allons construire notre paix là sur des bases solides. Parce qu'on ne peut pas être homme de paix. Au fond de Bangui, je vais citer son nom parce qu'il n'est plus, il n'existe plus. Nous ne sommes pas des opétistes, mais nous sommes des hommes de paix. La vérité est paix là. Est-ce que vous savez qu'au même moment où au fond de Bangui prenait la paix, au même moment là, et c'est lui qui alimentait aussi la guerre de Biafra au Nigeria. Les gens n'ont pas cette conscience là. La guerre de Biafra, ça c'est une... les archives d'Alain Fopa ont montré sa vérité là. Et le président gabonais de l'époque, associé à Oufou Boigny, sont les deux là, alors qu'ils faisaient l'affaire, la politique de la France dans la sous-région. Puisque la France venait d'être expulsée de l'Algérie, après la victoire des nationalistes sur l'occupation française, après cette victoire là, Total et Shell se sont vus obligés de se retirer d'Algérie. Alors où se positionnent maintenant? Alors ils sont allés alors, à la découverte de l'or noir du Nigeria. Alors il fallait maintenant une guerre de sécession très sanglante qui va mettre l'économie du pays à genoux. Et ils vont faire maintenant appel aux forces étrangères de venir pacifier et sécuriser le pays. Donc, selon Alain Foucault, dans Archives d'Afrique, Oufou Boigny était un acteur, c'est-à-dire dans cette crise-là. Et même après la défaite du sous-socialiste, après la déroute de son armée, il a eu refuge à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il parlait de paix, parlait verbalement comme ça, mais dans ses actions, il était un homme de guerre. Et c'est pourquoi les BT disaient que après son départ, son pays allait s'enflammer. Nous avons connu la pire guerre de la sous-région après le départ de Oufou Boigny. Donc c'est dire que ce n'est pas une paix véritable. C'est une paix relative. Mais en vérité, parce qu'il manquait, il n'a pas les fondements même et les bases solide de la paix. Non. Ainsi de suite, Obama, on lui a attribué le prix Nobel de la paix, pensant qu'il allait diminuer les choses. Et chaque jour, Dieu faisant, les bombes d'Obama tombaient sur les zones tribales du Pakistan. Les zones tribales au Pakistan. Et ça tuait des sunnites là-bas. Jusqu'aujourd'hui, les Américains continuent de bombarder seulement. Ils viennent de prétendre qu'il y a Al-Qaïda. Même l'autre jour, il y a une cérémonie de clôture de lecture du Coran. En Afghanistan, qu'on a bombardé. Tu as une trentaine d'enfants comme ça, de petits enfants qui venaient de finir la mobilisation du Coran et qui étaient en festivité. Ils sont venus prétendre qu'il y a les talibans, ils ont bombardé. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, puisque c'est eux les donneurs de leçons. C'est eux les maîtres, les gendarmes du monde. Alors qui va enquêter sur eux? C'est resté l'être mort comme ça. Donc c'est dire que ce ne sont pas des pays qui peuvent faire la paix, jamais. Tant qu'il y a cet égoïsme-là, il y a cette rivalité. D'occuper injustement le monde. Voilà, donc, ceux qui parlaient de paix là, les Bongo, les Boigny, les quoi, ce sont les mêmes là qui faisaient alimenter les coups d'État. Les coups d'État dans la sous-région. Les guerres même entre Mali, Burkina, guerre entre quoi, les coups d'État du Niger, les coups d'État du. Partout, vous allez vexer la France qui dit que non, je ne suis pas d'accord avec ce régime là. Il faut rapidement un changement. Donc, ça, grâce aux archives aujourd'hui, après 50 ans de leur départ, qu'on nous a permis de découvrir cette vérité-là. Ce ne sont pas des hommes de paix. Ce ne sont pas des hommes de paix, puisqu'ils ne sont pas même préparés. Ils n'ont pas la vraie construction, ils n'ont pas les bases solides de la paix. Donc nous allons faire recours au texte et à la religion. Je vous pose cette question-là. J'avais vu un prophète ou un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala venir avec la violence? Non. Jamais. Pour vous dire tout court, avant de rentrer dans les détails, que c'est la religion la solution. Car c'est Dieu d'abord, la paix. Il envoie aussi des hommes de paix pour nous appeler vers une cité appelée cité de paix. Ça, c'est plus l'histoire. Il faut comprendre la chose là comme ça. Donc, un prophète ne peut pas être violent. Non. Violenter quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est aider à élargir encore le champ de Satan. Satan se plaît beaucoup de voir quelqu'un mourir dans son camp. Alors que notre rôle, c'est quoi? C'est délivrer l'homme. C'est l'émanciper. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est carrément contradictoire. Vouloir imputer la guerre, la violence, le terrorisme à la religion, c'est archi faux. Ce n'est pas une vérité. Parce que le rôle de la religion, c'est quoi? C'est la clémence. Nous allons détailler ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle de la religion, c'est quoi? C'est émanciper l'homme. Parce que la religion a trouvé l'homme esclave de sa propre passion. Esclave de sa passion. Esclave de ce bas monde-là. Esclave de l'argent. Le prophète a dit, Taïsa abdu dinari, Taïsa abdu dirham. Esclave de l'argent. Alors, le rôle de la religion, c'est délivrer les gens. C'est de les émanciper pour qu'ils deviennent serviteurs du Tout-Puissant, du Clément, du Tout-Miséricordieux et du Très-Miséricordieux. Donc, voici brièvement, alors un aperçu comme historique. Je ne vais pas faire une historique puisque là, nous allons parler de Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Isa ibn Maryam, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'historique là est longue. Non. Donc, vous avez eu le temps de lire votre noble Coran, vous allez découvrir que tous les prophètes là ont amené la paix. Alors, recourir à la violence n'est que, c'est une position de dernier mesure, un dernier recours, quand on finit tout, et que l'homme s'acharne toujours à combattre la vérité. Il s'entête. Sans ce mot-là, quand on dit trop, c'est trop. Vérité, prends ton arme maintenant pour montrer que tu es plus fort que lui. Tu as été pacifique durant ce temps-là, c'est parce que c'est ça. J'étais envoyé pour ça. Mais comme il s'est entêté là, et lui, personne ne peut le guider, alors maintenant il faut en finir avec lui pour qu'il ne contamine pas les autres. Donc, chers frères et sœurs, la construction de la paix. Pour être un peu bref, nous allons construire notre paix là-dessus des bases solides. Premièrement, la paix en islam et dans toutes les religions émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala repose d'abord sur la foi, la croyance, al-iman billah. Vous savez que la croyance a combien de piliers? A 6 piliers. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Al-iman billah, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est non. Parmi les noms d'Allah figure Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Cette répétition, c'est pour nous montrer effectivement que la surat al-Fatiha dans son entier reflète cela. C'est un Rahman. Ar-Rahman, c'est-à-dire que le tout miséricordieux. Alors, celui de la miséricorde englobe toute la créature. Ça suffit toute la créature. C'est grâce à ça qu'il y a presque 5 milliards d'êtres humains aujourd'hui qui mécroient en lui, qui l'insultent du jour au lendemain. Et ils continuent de leur octroyer du tout, de leur lancer des aubaines, leur faire du bien partout. Ar-Rahman, Ar-Rahim pour les croyants. Et vous voyez. Alors, quand on comprend ici que c'est ce Dieu-là, Nabbi ibadi anni an al-Ghafur rahim wa anna adabi huwa al-adab al-adib. C'est-à-dire, c'est Ar-Rahman qui précède d'abord, qui est d'abord en premier lieu. Naam. La Ar-Rahman est plus vaste, plus large. C'est pourquoi, dans le verset, vous allez voir que quand Allah, c'est-à-dire, il parle de châtiment ou de Rahman, côté Rahman là est consolidé par des mu'akkidat. Inna. Allah. Yani, il confirme ça pour montrer effectivement, même s'il va châtier, mais sachez que, alors, globalement, il a une miséricorde qui suffit tout le monde. Donc, la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. En ces noms bénis, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, parmi ces noms sublimes, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, en ces noms, c'est croire effectivement que le Rahman et le Rahim, As-Salam, il a créé une cité appelée Dar-Salam. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unifier. Mais quand on dit Al-Iman Billah, c'est croire en un seul Dieu. Alors, les religions où il y a la Trinité ne sont pas monothéistes. Prétendre qu'Allah a un fils n'est pas du monothéisme. Quand aujourd'hui on prétend que les trois religions monothéistes, non. Il y a une seule religion monothéiste aujourd'hui sur la terre, qui n'est autre que l'islam. Les autres religions là sont erronées, sont dans la décadence. Voilà donc, Al-Iman Billah, croire à Allah, c'est l'unifier. Tawhiduhu. En unifiant Allah subhanahu wa ta'ala, on devient unique. Naam. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui au Burkina Faso en tant que musulman? C'est parce qu'on est dispersé. On est séparé. Pourquoi? Parce qu'on cherche la solution. La solution, quoi? La première cause même qui a divisé les musulmans, c'est le manque de tawhid. C'est pourquoi il y a un savant qui a dit, un Européen, là on était au pèlerinage, un jour dit que la tawhida illa bi tawhid. Il n'y a pas d'unité sans unifier Allah subhanahu wa ta'ala. L'unité des musulmans passe d'abord par l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il y a un philosophe qui dit que, alors pour s'entendre avec quelqu'un, il faut regarder dans la même direction. Alors, moi je suis communiste et toi tu es capitaliste. On s'entend pas? Si vous voyez que en l'Union africaine, après les indépendances, les Kurumala n'ont pas pu réunir les Africains. Alors, sur des objectifs sublimes, ils n'ont pas pu trouver, c'est-à-dire une seule langue, une langue commune pour les Africains. Je me rappelle, j'ai entendu les propos. Alors, Kurumala a failli même verser des larmes parce que le choix était porté sur la langue swahilite. La langue swahilite. Et il y avait des présidents comme Oufet Boigny, comme Père Bongo à cette époque-là, et puis le président malgache, comme il s'appelait à cette époque, il était vraiment pour la France à 100%. C'est lui qui a saboté avec Oufet Boigny. Ils ont saboté les initiatives, en tout cas, qui cherchaient à unifier le continent. Alors, quand on a fait la proposition de la langue swahilite, c'est une langue, la langue la plus parlée en Afrique. Certains vont me dire que c'est la langue Peul. Oui, c'est vrai. La langue Peul est très, très répandue. Il y a la langue Hausa aussi, la langue Yoruba. Mais la langue la plus parlée, plus répandue et plus, c'est-à-dire performante aujourd'hui, c'est la langue swahilite. Avec des poètes, avec c'est comme le tigré en Éthiopie. Alors, qu'est-ce que les opposants de cette proposition-là ont dit? Ils ont dit que cette langue-là comporte beaucoup de mots arabes. Regardez. Que c'est une langue qui comporte beaucoup de mots arabes. Donc finalement, on va arabiser le continent africain. Qui ne sont pas d'accord? Vous voyez? Donc on a saboté ça. On a saboté. Alors qu'aujourd'hui, on a francisé le continent. Hein? Continent, ça c'est passable, mais arabiser là, non. Là, on n'est pas d'accord. Donc vous voyez? Donc ils ont fait échec. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs religions. Il y a des chrétiens qui ne voulaient pas la langue arabe. Il y a des chrétiens qui ne voulaient pas. Si c'était tous des musulmans, et des musulmans aussi qui regardaient dans la même direction, je pense que l'unité de les Kourmans n'allaient pas avoir de peine pour unifier les musulmans. Donc, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unifier. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se trouver dans l'union au sein de la communauté africaine, de la communauté musulmane. Naam, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Naam, quand il y a adoration unifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la umma la signifie en ce moment-là. Fattaqun, quand il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens peuvent signifier. Donc, croire en Allah, unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le profit que nous gagnons en ce moment-là, c'est l'unité des musulmans. Alors, l'unité des musulmans va diminuer les hostilités. Aujourd'hui, entre sunnites et chiites, hein, ça coule le sang. Ça fait couler le sang où? Hein? Au moins, il n'y aurait rien que vous le constatez. Même aujourd'hui, les chiites sont en train de se préparer au Burkina Faso. Par le biais des forces étrangères, les donner plus de force pour qu'un jour, il y ait contrepoids dans le cher pays-là. Il y a conflit comme là-bas. Et ils vont profiter, vendre les armes. Profiter maintenant, réouvrir encore les bases militaires. Nous recouper encore militairement. C'est ça la stratégie, quoi. Aujourd'hui, nous sommes des sunnites dans le sens global de la sunna. Donc, on peut s'insulter verbalement, mais il n'est pas question de prendre les armes les uns contre les autres. Mais le jour où le chiisme aura sa place, droit de cité au Burkina Faso et en Afrique, vous allez voir en ce moment-là, nous sommes en cours de choses lorsqu'une bombe va éclater sur le pays à s'engraiter. Puisque le chiite, c'est le chiite même, qui est un sunnite, c'est se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est un sunnite. Chez nous, on ne tue pas. Mais chez eux, les ayatollahs ne se trompent pas. S'ils disent de tuer telle personne, c'est fini. Donc, j'ai des chiffres même qui sont très, très éloquents, qui montrent effectivement contre Abu Tahir, c'était Abu Tahir, un chiite, lorsqu'il a envahi la Kaaba, en une seule journée, il a décapité presque 70 pèlerins, 70 000 pèlerins, dans l'enceinte de la Kaaba. Une tuerie. C'est-à-dire,
voler la Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire là, garder Al-Ahsa pendant presque des décennies. Donc entre nous et eux, c'est le vrai conflit. Sinon, entre nous, dans la Sunna, dans ce sens global, on peut s'insulter, on peut se frapper même comme ça, mais pas question de prendre les armes et de verser le sang. Vous voyez ? Donc, l'unité là, donne la paix. C'est pourquoi les révolutionnaires, quand ils viennent, ils cherchent l'Union africaine. Si il y a l'Union africaine, est-ce que le génocide de Rwanda, le Rwanda là, aurait lieu ? Est-ce que le génocide de l'Ouganda, la guerre Bété, Djula, en Côte d'Ivoire ? S'il y a unité, le cas sera comme les États-Unis, qui sont des pays qui ont traversé des zones de turbulence, comme nous, plus que nous-mêmes, mais aujourd'hui, avec l'unité, ils ont pu en tout cas avoir la paix. Donc, c'est dire effectivement ce que nous allons retenir dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la foi nous unit. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, un seul Dieu, un Dieu unique, unifie les gens. Quand ils sont unis, il y a moins de risques de faire la guerre. Donc voici aussi, c'est-à-dire un pilier qu'il faut soustraire de choses de la foi. Alors, continuez toujours avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire en Allah, la question que je me pose, les deux fils d'Adam qui se sont tués, qui se sont livrés bataille, non, c'est un qui a voulu tuer l'autre. Alors, qui connaît leur nom? Pour que l'assemblée ne dorme pas. Je vais vous associer. Dans le, quand je vois les gens somnoler alors que nous sommes dans le djihad, notre djihad est verbal, hein, c'est pas le djihad des faux djihadistes là. C'est qui et qui en Irak, la France le français n'était pas encore né. Le français est Molière. Le français n'était pas encore né. Oui, Kabila, Wahabila. Qui a tué qui? Qui a tué qui? C'est Kabil qui a tué son frère Habil. Alors, le contexte du Coran, qu'est-ce que le Coran nous dit? Qu'est-ce qui a dissuadé Habil de répondre à la violence par la violence? Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a une basata, il y a Yadakani Taktulani, si tu me tends ta main pour me tuer, moi je ne ferai pas, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. Pourquoi? Je crains Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah. Donc comme il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas porter sa main sur son frère là pour le tuer. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de craindre. Savoir qu'il est, il est omniscient. Naam. Et tout le monde, chacun sera appelé un jour à rendre compte. Donc cette croyance-là, en tout cas, empêche l'homme de s'éveiller la terre et se taire. Naam. Nous allons continuer encore. Croire les six piliers de la croyance, bon, nous allons développer ça d'une façon succincte. La croyance à Allah, on a fini, on a pris quelques éléments. Wa malaikatihi, si le musulman croit effectivement qu'il y a deux anges, hein, l'un sur l'épaule droit et l'autre sur l'épaule gauche, qui écrivent les mauvaises œuvres, en ce moment-là, je pense que cette croyance va l'empêcher de faire du maître. Naam. Wa malaikatihi wa kutubihi, croire au livre révélé, wa rusulihi, aux prophètes qui sont les porteurs de paix, wa yawm al-akhir, le jour du jugement, le jour des comptes, croire en ce jour-là, je pense que tout ça là dissuade l'homme. Alors, et l'empêche de commettre le meurtre. Wal qadar khayrihi wa sharrihi. Donc, pour ne pas trop aller dans les détails, comme vous êtes tous musulmans, vous avez entendu beaucoup parler de ce pilier-là. Yani, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je veux dire, effectivement, croire à ce monde invisible, croire un jour qu'on est appelé à rendre compte, nous évite beaucoup les erreurs. Et ça, c'est évident. Alors, ceux qui tuent au hasard, ne savent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, la victime viendra accrocher à l'épaule du bourreau et dira que voilà, mon Seigneur, demande-lui pourquoi il m'a décapité, pourquoi il m'a tué. Moi, j'aurais souhaité avoir une longue vie pour pouvoir chanter longuement ta louange. Et c'est vrai. Donc, il est formellement interdit, si effectivement on avait cette croyance là, subhanahu wa ta'ala, 15 jours on sera appelé à rendre compte, alors ça va réduire considérablement la violence que nous connaissons aujourd'hui. Donc, voici succinctement ce pilier là, qui est quoi? La croyance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sur cette croyance là, on peut baser, c'est-à-dire on peut construire une paix durable pour nous et pour toutes les générations futures. Naam, al-imanu billahi ta'ala. Continue un peu parce que je viens de me rappeler de certaines choses relatives à ce pilier là, un pilier fondamental. La croyance à Allah, qu'est-ce qu'elle nous procure? Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah, c'est se fier à lui seul. Se fier à lui seul. C'est l'adorer. L'adoration sera un pilier à part entière. Mais quand on croit en Allah, il nous dit que non. Quand quelqu'un il sort le matin, il se fie à lui. Et en ce moment-là, c'est lui qui est garant de sa sécurité. Allah devient garant de sa sécurité. Les riches aujourd'hui ont des gardiens devant leurs portes, devant les magasins. Et même nous, dans notre tournée, dans la ville de Bobo-Dioulasso, nous sommes sécurisés par des hommes de sécurité. Mais sachez que l'homme ne peut pas sécuriser l'homme. C'est une sécurité apparente. C'est une réalité. Rappelez-vous d'un certain un président algérien qui a été fusillé par son propre garde. Sa propre garde. Comment il s'appelle? Mohamed Bodiaf. Il était en Bili, je sais quoi, en train de faire un discours pour saboter les islamistes. Alors dire que les progressistes sont venus apporter de la lumière à l'Algérie, l'État algérien, et les islamistes veulent encore renvoyer les gens dans l'obscurantisme. Il parlait comme ça lorsque sa propre garde, le militaire qui était chargé de le garder là, s'est tourné contre lui pour décharger toutes ces munitions-là. Alors, c'est sa propre personne. Peut-être c'est 36 balles, on ne peut pas, on ne sait pas. Quel micro ça?
Qu'est-ce qu'on fait?
Ce micro-là? Soulevez le micro. Ok. Inch'Allah. Non, continuons. Je vais lever un peu ma voix. Je n'ai pas atteint d'avoir des 60 ans. J'ai 58 ans. Je n'ai pas atteint 60 ans. Même à 60 ans, je vais crier encore, Inch'Allah, par la grâce de la Sainte. Non, comme c'est le jihad là, je vais lever davantage ma voix. Voilà, donc, celui qui était censé sécuriser le président a assassiné le président. Donc, l'homme ne peut pas garder l'homme. Le véritable gardien, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète, à un certain moment, Dieu lui a dit, « Alayhi sallahu bi kaakin abda. »« Alayhi sallahu bi kaakin abda. » Allah n'était pas suffisant pour son serviteur. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons se succédaient. Ils se succédaient. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cette révélation, alayhi sallahu alayhi wa sallam, et depuis ce jour-là, le prophète a décliné ses ordres. Alors, il a dit aux compagnons, en tout cas, que chacun se cherche, lui en tout cas, il a sa sécurité à lui. Allah va à faire de celui de sa sécurité. Dans notre verset, « Voyons, monsieur, alaykum hafaza,
avec Mahabara, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie des gardiens pour le sécuriser. Naam. Lahum mu'aqibat min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu min amrillah. Chaque être humain est gardé et sécurisé par des anges émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant toi comme derrière toi. Lahum mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Donc quand on suffit Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment on est en sécurité. C'est pour qu'il ait dit, celui qui sort le matin, Bismillah, amantu billah, tawakkatu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, la min a'udhu bika an adilla aw udalla aw. Jusqu'à la fin, on est sécurisé jusqu'à notre retour. Qui fait cette sécurité-là? Ce sont nos policiers-là, nos gendarmes, nos militaires. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vraie sécurité vient de lui. Donc croire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'appeler pour que tu sécurises. Alors, il te sécurise et en même temps, il sécurise l'environnement. C'est lui qui est capable de sécuriser la maison, de sécuriser le quartier, de sécuriser l'environnement et le pays tout entier et toute la sous-région et le monde entier. Donc, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui effectivement. Donc, cette croyance-là est plus qu'une nécessité. Donc, progressez un peu. Donc, la croyance-là, vous voyez, c'est un champ très très large qu'on peut définir ça à un livre à part entière. Parmi la croyance aussi, quand on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous sécurise sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire. Y a-t-il pas de verset? Qui a un verset dans ça? La croyance à Allah subhanahu wa ta'ala nous procure beaucoup d'opulence et beaucoup de sécurité alimentaire. Non, je veux que quelqu'un lève la main, nous allons prier pour lui pour qu'il parte au pèlerinage. Un dalil du Coran. Quand on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors en contrepartie, il fait descendre le ciel abondamment. Non, toi tu es un imam, l'assistant. Il n'y a pas un verset. Il y a plusieurs versets du Coran. Bismillah. Nafs wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. فَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَسَأَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا سَأَنْزِلُ سُورَةَ الْأَعْرَافِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا سِي لَجَنَّ دِسِتِي أَبَكْرُ عَلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى بَكْرِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ نُزُرِيَ أُوفَر لِزُبَيْن لِزُبَيْن دِسِي إِلَى الْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سَأَنْزِلُ إِبْدَان. La sécurité alimentaire. Et quand Noé a harangué la foule, et qu'Allah le reprend ça dans le noble Coran, dans un texte, il dit Wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Je vous ai dit de multiplier al-istighfar, astaghfirullah, le repentir. Innahu kana ghaffara. Yursilu as-sama'a alaykum midrara. Il va descendre abondamment la pluie. Wa yumdidukum bi amwali, va multiplier votre avoir. Wa banina, vos enfants. Les gens n'aiment pas aujourd'hui les enfants. Les intellectuels qui êtes vous écoutez la CDO plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi vous ici, chacun se contente de 3 enfants, 2 enfants seulement. Alors Allah dit dans ce verset-là, vous me dites que amwali wa banina. C'est un trésor. Waj'alakum jannati waj'alakum anhar. Donc, chers frères, d'une façon globale, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala est un pilier fondamental de la paix. Rien que la sécurité. C'est pourquoi les hommes, dans le temps passé, nos ancêtres, nos parents nous ont transmis ce message-là, que s'il y avait un lion qui attaquait un village, alors parmi les chasseurs qui vont sortir, alors les chasser, on pose la question, qui n'a pas enfreint à une loi du village? Qui n'a pas forniqué? Qui n'a pas menti? On pose des questions comme ça. Et celui qui est sûr de ne pas enfreindre ces choses-là, c'est celui-là qui sort. Et le lion, on peut le blesser et le laisser partir. Et dans le livre L'Enfant Noir de Kamara Lai, il a dit quelque part que on a lancé le défi dans tout le village. La femme qui n'a pas trahi même un seul jour son mari, dans la nation de Dipila. Et c'était la mère de Kamara là, qui était sur toutes les autres femmes là, qui se disaient vraiment, non, 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 moi je suis sérieux, moi je suis comme ça là. Ah, donc, chacun s'est cherché ce jour-là. Donc c'est dit, regardez, même dans la temps de Jahiliya, alors une bonne action, alors mène à la sécurité. Donne la sécurité, donne la paix. Donc en islam, ça en tout cas, par la grâce d'Allah, ça c'est vraiment connu, Inch'Allah Ta'ala. Dans mon enfance, ça c'est pas se vanter, nous étions encore à l'école primaire, à la madrasa, lorsque le mu'allim nous a enseigné ce hadith-là. Bismillah, amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah. Donc à chaque sortie de la maison, moi je lisais le hadith. Croyez-moi, il y a un petit frère qui est monté sur un arbre pour cueillir des choses de qualité. Et lorsqu'il a secoué la branche là, il y a les abeilles là qui sont tombées en masse et qui sont lancées maintenant à la puissance de. Ils ont attaqué le petit là qui est tombé comme un marbia. Ils l'ont attaqué. Et le papa aussi qui était un nom, c'est le petit frère de mon père. L'oncle aussi qui était avec nous, ont été entourés, attaqués par les abeilles. Et ils couraient, ils se cachaient dans les buissons. Et moi qui marchais comme ça, ils sont venus à trois reprises m'entourer. Ils me partaient, mes laissés sains et sont. Donc, ces deux-là sont venus me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est après que je me suis rappelé que non, peut-être c'est le hadith que j'ai lu là, qui m'a sécurisé ce jour. Donc c'est évident. C'est évident. Mais il faut croire. Il faut croire à la véracité du texte. Si tu fais avec des doutes comme les doutes de Pascal, parce qu'il dit que lui il va adorer Allah, si tu trouves qu'il est là, alhamdulillah. Mais s'il n'est pas là aussi, alhamdulillah, lui là, en tout cas, il me dit c'est caractère de ce bon. Non. Tu fais avec la conviction que c'est une vérité. Donc ça c'est la croyance comme base solide pour la paix. Avançons un peu. En islam aussi, nous connaissons ce que. Nous avons un autre nom appelé Al-Islam. Ça, c'est le nom que nous voulons le plus. Il y a Al-Iman, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Al-Islam. On n'a pas besoin de nous étaler beaucoup sur ça, puisque l'islam même, la paix même dérive de ça. La paix et l'islam se rencontrent dans un seul mot. Salima. Salima, Islam est venu de là-bas, Salam est venu de là-bas. Donc, les deux prennent source du même mot. Voilà. Alors, parmi les sens de l'islam, c'est quoi? Al-Istislam de la subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à sa volonté. Laisser tout ce qu'on avait, alors, comme croyance erronée, laisser nos propres penchants, laisser tout pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Istislam de la subhanahu wa ta'ala. En contrepartie, ça va nous donner du tout. Non. Alors, comme deuxième sens de l'islam, qui suit automatiquement le premier sens, c'est As-Salama. Être exemple de sûr, exemple de défaut. Les savants disent que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala avec les actes d'adoration, en les multipliant, se trouvera un jour exemple de sûr, exemple de péché, alors exemple de défaut. Naam. Alors, prenons l'exemple de l'abolition. L'abolition pour le musulman est quoi? Est-ce qu'on peut trouver ça, abolition? Est-ce que on peut quitter sa femme et puis immédiatement aller dans une mosquée prier? Ce n'est pas possible. Donc au préalable, le musulman est demandé à faire quoi? À se purifier le corps, la purification corporelle. Le prophète nous dit que non, ce n'est pas une purification corporelle, mais plus, c'est plutôt une purification spirituelle. Enfin, chaque fois qu'un membre du corps est lavé, ça veut dire que tous les péchés émanant de ce membre-là aussi alors sont lavés. Et se voyez. Donc c'est corporel mais c'est spirituel en même temps. Donc ça consiste, l'abolition que nous voyons comme ça là, alors c'est pour purifier les musulmans et physiquement et spirituellement pour qu'ils puissent s'arrêter devant son Seigneur. Moi je pense que si alors on a l'invitation d'aller rencontrer Rockmark Christian Kavori dans son palais, je pense que tout le monde va changer de tenue vestimentaire et de changer de comportement. On va prendre une autre position avant d'aller chez le président. Donc de même, mieux que ça, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman est appelé à se purifier, à bien s'habiller, à être correct et coquette alors pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les actes d'adoration là consistent à purifier l'homme. Non, nous n'allons pas aller dans les détails puisque nous avons beaucoup de choses à dire. Non. nous avons cité le tawhid, l'exemple de la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Non, la prière, c'est la prière qui empêche de tomber dans les grandes erreurs à laquelle nous connaissons aujourd'hui. Non, la zakat, son nom même c'est quoi? Zakat, c'est tazkiyah, purification. C'est purification. Purifier son âme, purifier l'âme d'autrui qui était contre toi. Parce que quand on donne à quelqu'un, en tout cas, on pacifie le climat entre ces deux. Et en offrant du travail aux gens, en enrichissant la société, en réduisant le chômage, je pense que ça c'est un grand facteur de paix. L'âme, le jeûne, le pèlerinage, tout ce que nous faisons comme acte d'adoration, le maintien de parenté. C'est pour quand bon, Inch'Allah, si je n'oublie pas, je vais m'étaler un peu sur les dimensions de la paix en islam. Non. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'être son serviteur, c'est parce que c'est lui qui détient les vraies clés de la paix. En l'adorant, en s'émancipant de la servitude des gens de ce bas monde, de la passion et de la dunya. Et si on devient en ce moment-là serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, nous recevons la paix de sa part. C'est pourquoi après la prière, qu'est-ce qu'on dit, hein? Qu'est-ce qu'on dit à la droite? On dit assalamu alaikum. Et à la gauche aussi, on dit assalamu alaikum. À tous ceux qui sont à ma droite, paix sur vous. À ma gauche, paix sur vous. Et ensuite, on ajoute Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarata ya dal jalali wa l'ikram. C'est toi la paix. Parce qu'en priant, alors, en tout cas, on s'est éprié, en tout cas, de cette paix-là, qu'on veut donner à ceux de la droite et à ceux de la gauche et à tout le monde près de nous. Alors, si les deux musulmans se rencontrent, les gens qui prient ensemble, hein, et ça, c'est la prière qui symbolise effectivement l'islam, s'ils se rencontrent seulement, les mots qui doivent se lancer, c'est Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Donc, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'islam, tout ce que l'islam a. À enseigner, alors, donc, fait partie en tout cas de la construction de la paix. Donc, le deuxième pilier, le deuxième principe en tout cas de la paix est l'islam dans son sens le plus global. C'est pourquoi, permettez-moi ici, alors, d'élucider certaines dimensions de la paix en islam que les autres ne connaissent pas. Chez les autres, c'est quand il y a cessation d'hostilité. Alors que chez nous, en islam, d'abord, on a la paix entre nous et puis notre Seigneur. Ça vraiment, les autres me connaissent cela. C'est dans la seule religion là que nous pouvons connaître cette vérité là. La paix, c'est d'abord la paix avec Dieu, à travers la soumission à lui. Non, Dieu a appelé, c'est-à-dire ceux qui enfreignent à ses lois, il les a appelés des quoi? Des choses, des gens qui le combattent. Non, c'est pourquoi dans le verset de la sourate Al-Ma'ida, qu'est-ce qu'il a dit? Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada. Donc ceux qui brandissent l'épée contre Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala, combattre Allah, on ne peut pas combattre Allah yani, physiquement, mais sans, c'est-à-dire sans les désobéissants, alors c'est ce qui est considéré en islam comme un combat. Donc en ce moment-là, alors les mécréants qui ne sont pas musulmans combattent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chaque jour, Dieu fait ça. Non. Ne pas connaître son existence, lui attribuer des enfants, alors commettre les péchés graves, comme les péchés mineurs. À chaque fois qu'on tombe dans le rêve, on est en conflit ouvert avec notre Seigneur. Et dans ce cas, alors, nous avons en ce moment-là la douceur du cœur, l'anxiété. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de suicides dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Non. Donc, la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant, quand on l'adore, il nous procure ce que nous avons dit tantôt à travers le premier pilier qui est la foi. Nous avons aussi en islam, les autres ne connaissent pas ça, la paix avec les deux parents. Les deux parents. Chez les autres, on peut convoquer son père en justice, à la justice. Non, en islam, on dit que non. Donc il faut être en paix avec son père. Donc c'est toute une construction. C'est toute une construction. Ce n'est pas seulement un comportement. Non. La paix avec ses enfants, avec son épouse, avec ses voisins. Non.
avec son concitoyen, avec le non-musulman, comme vous avez entendu dans le discours du docteur Kilo hier au stade, avec le non-musulman. Si toutefois notre relation avec le non-musulman ne cause pas préjudice à notre religion. Non. Alors cette relation-là, l'islam l'a vu. Donc il faut construire une paix généralisée comme ça avec tout le monde. Les gens pensent que si il y a la domination de l'islam, les minorités religieuses là auront des problèmes de survie. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors demandez-vous la biographie de ceux qui composent le gouvernement israélien aujourd'hui. L'État d'Israël, depuis la création de l'État jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que successivement, ceux qui ont pris le pouvoir en Israël sont issus des pays du Maghreb. Soit l'Algérie, soit la Tunisie, soit le Maroc. C'est la Libye qui n'a pas coopéré comme ça avec l'Occident lors de la construction de l'État d'Israël. Les autres pays arabes ont ouvert grandement les portes pour que les Juifs émigrent en Palestine. Donc c'est dire que où vivaient ces Juifs-là? Alors, l'histoire récente nous dit que les Juifs ont été persécutés en Europe. Ils n'ont pas eu la vie sauve en Europe. Alors, tout récemment, ce que Hitler a fait, vous connaissez, l'Holocauste. Donc ils étaient persécutés. Parce que ce sont des gens qui se regroupent dans des petits quartiers et qui se distinguent des autres. Qui pensent que leur race là est supérieure aux autres races. Donc par contre, il n'y a pas de lien entre eux et les autres communautés. Donc il y a toujours persécution. En Russie, la même chose. Hein? Avant la révolution bolchevique, les Juifs étaient persécutés. En Europe, partout. Donc les Juifs avaient la vie sauve dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans. Ils étaient minoritaires, mais on respectait leur religion. Est-ce que vous savez que votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Médine, a signé des pactes avec des non-agressions et des défenses communes et de vivre en paix avec les Juifs de Médine. Donc, alors, avec la domination de l'islam, les minorités religieuses ne sont pas inquiétées. Pourquoi? L'islam a des lois qui les protègent. L'islam a des lois qui reconnaissent leurs droits, en tout cas, de liberté d'expression et de liberté de culte. Non. Donc, l'islam veut la paix avec même les non-musulmans. Sauf dans le cas où vraiment nous sommes agressés par eux. Nous sommes agressés par eux. Et aujourd'hui, nous constatons que vraiment, la situation est un peu difficile. Parce que quand on dit vivre ensemble, le vivre ensemble, d'autres pensent que c'est s'effondre carrément dans l'autre. C'est se dissiper. C'est disparaître. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai lu depuis hier dans les réseaux sociaux que le pape se prépare pour rendre visite au nord du Burkina Faso. Je ne sais pas si c'est une vérité ou pas. Vous savez que le pape a été à Bangui, en Centrafrique. Quand le pape vient chez nous, ça veut dire qu'il a détruit les autres religions là pour donner le privilège au christianisme. Ouais, parce que le christianisme n'est pas fondé sur des bases, des vraies bases. C'est pourquoi c'est comme ça. Non. Si je dis que si on te juifle la joue gauche, il faut tendre les chrétiens ne pratiquent pas ça aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas inspirés par. C'est pourquoi Abdelmadjid dit souvent que toi, qui parles comme ça là, tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. Toi, tu es habité par le mauvais esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il crie, il fait des mauvais gestes. Hein? Donc le chrétien d'aujourd'hui est comme ça. Voilà. Donc, il faut qu'on sache effectivement que les musulmans du Burkina Faso se divisent aujourd'hui en trois catégories. Il y a une catégorie qui veut rejeter catégoriquement les autres communautés religieuses. Alors, ça, c'est un défaut. On ne peut pas les rejeter. Du fait que c'est Allah qui a voulu que ça soit ainsi. Voilà, si Allah l'avait voulu, toute la terre serait musulmane. Mais il n'a pas voulu ainsi. Il a voulu que les musulmans du Burkina Faso soient à 60% et les autres communautés religieuses aussi vivent avec nous. Donc, obligatoirement, nous devons ensemble bâtir ce pays-là. Et c'est Allah qui a voulu que cette identité-là soit appelée Adwarta tantôt, le Burkina Faso tantôt. Non. Et l'autre côté aussi, il y a le Mali et il y a le Niger. Alors maintenant, il faut, c'est-à-dire, légiférer les lois pour effectivement partager de vivre ensemble entre ces communautés-là. Donc, rejeter l'autre n'est pas de l'islam. Bon, accepter totalement l'autre aussi, se fondre dans sa réalité aussi n'est pas de l'islam. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens, bon, surtout vous les intellectuels, alors, à cause de vivre ensemble, vous voulez tout faire avec les autres. Nous voyons même vos leaders. Non. Je n'ai pas peur de dire la vérité.
qui s'empressent pour aller déclarer leur amour au pasteur, à tel pasteur ou à tel archevêque. Alors, qui sont de déclarer leur fraternité, leur amour commun, leur amour commun. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup attention. L'islam autorise le vivre ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tu dois disparaître, puisque le rapprochement incontrôlé, le rapprochement démesuré, vous connaissez le cas de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec son rideau de fer. Avec le rideau de fer. Lorsque ils se sont ouverts au monde occidental d'une façon anarchique, ça a occasionné la chute de l'Union soviétique. Parce que la soviétique est vraie. Il faut s'ouvrir, mais d'une manière contrôlée. Il faut respecter ces règles. C'est pour que hier, dans la conférence au stade, on a bien dit que non, le rapprochement entre musulmans, la coopération entre musulmans et non-musulmans doit être basée sur des bases solides. Il faut que ça ne cause pas, c'est-à-dire, le déclin de l'islam, le recul de l'islam. Non. C'est-à-dire, ça crée l'amalgame. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la talbisu al-haqqa bil-batil wa taqtumu al-haqqa wa antum ta'lamun » Mélanger le faux et le vrai. Le mélange là. La génération qui va venir, c'est-à-dire ne sachant pas qui est la vérité. Où est la vérité? Et c'est vrai. Donc, il faut que la vérité là ait sa position exacte et le mensonge aussi. Pour que les deux se distinguent, pour qu'effectivement les choses puissent aller normalement. Donc, voici ces trois cas. Il y en a qui veulent rejeter les autres communautés. Nous, on n'est pas d'accord pour ça. Il y en a qui veulent les accepter catégoriquement, jusqu'à participer dans leurs festivités, faire comme eux, hein, les ressembler dans tout. Et là aussi, c'est une grosse erreur qu'il faut éviter. Alors, les juifs musulmans, c'est ça que l'islam prône. Non. La paix avec les autres communautés, dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah nous dit, dans sa soumission, d'être en accord aussi avec les autres communautés, comme il nous enjoint aussi, d'être en communion même avec la nature, avec les insectes, avec les oiseaux, avec l'animal, avec l'animal. Naam, l'homme doit être clément. Naam. Même pour immoler la bête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans son hadith? Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Voilà, il a prescrit la bienfaisance dans chaque chose. Donc pour immoler la bête même, il faut que le côté la soit penchant. Alors pour faciliter la santé de l'âme de l'animal. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça l'islam. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous embellit. Alors, ça change carrément nos comportements pour qu'on devienne effectivement positif, alors pour tout le monde, alors pour même pour l'environnement. C'est pourquoi vous allez voir que il n'est pas permis d'uriner de déféquer sous un arbre ombré, les ombrages, dans l'eau, ainsi de suite. Le prophète n'a pas manqué alors de nous démontrer aux musulmans comment il peut protéger la sainteté de l'environnement. Non. Donc l'islam, voici les deux piliers. Le premier pilier c'est l'iman. Le second pilier sur lequel nous allons fonder notre paix, l'islam. Et quand on avance maintenant, l'islam et l'iman engendrent ce que la religion appelle l'ihsan wa taqwa wal islam. Ça c'est le plafond, ça c'est le haut niveau que le musulman peut atteindre. Non, devenir un muhsin. Muhsin même c'est quoi? Quand on dit al-muhsin, qu'est-ce que ça veut dire? Je pose la question, je vois certains commencer à à multiplier les actes de relation, en se forçant de on devient autrement. En partant, en se battant sa spiritualité, on devient un muhsin. On est au-dessus des autres. Al-muhsin, c'est quoi au juste? C'est quoi le sens? Al-ihsan. Car Allah aime ça. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ça, c'est le plafond que le musulman peut atteindre. En ce moment-là, alors, Allah Akbar, le bienfaiteur, qui consiste à faire quoi? On devient comment en ce moment-là? Quand on devient bienfaiteur, non, ce n'est pas seulement utile. Un bienfaiteur, il fait toujours du bien, même à ceux qui le persécutent. Non. Dans la Bible, il dit que priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça, Al-Ihsan. Car Allah dit, Wal-Afina an-Nas, les pardonneurs, ceux qui pardonnent. Et il dit à la fin du verset, Wallahu yuhibbu al-Muhsin. Non, ceux qui pardonnent. Parce que, graduellement, quand on multiplie les actes d'oration, on avance. Parce qu'il n'avance pas, recule. Il faut toujours avancer. À un certain niveau, on devient comme un saint sur la terre. Muhsin. On se méfie de piétiner les insectes là. On devient un Muhsin. Al-Ihsan. Faire du bien à quelqu'un. On est content quand l'autre est content, le prochain est content. On est satisfait d'avoir satisfait l'autre. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La perfection de la croyance. Jusqu'à ce que tu aimes pour ton prochain, ce que tu aimes pour toi-même. Ma yuhibbu li nafsihi. C'est ça la bienfaisance. Être bienfaiteur. En ce moment-là, hein, est-ce que tu vas tout écouter? On n'écoute du tout? N'importe comment? Non. On ne dit pas n'importe quoi. Donc je vais vous demander des hadiths dans tout ça. Alors, le musulman à ce stade ne dit pas du mauvais. Il mesure sa parole. Qui a un hadith là-bas? Ou bien un verset? Quand on arrive à ce stade-là. Ça, ce sont les bases même comme ça. C'est pourquoi certains, ils ne parlent pas. Quand ils sont assis en public, ils ne parlent pas. Parce qu'il sait qu'il est contrôlé. Il a la présence divine en lui. Il sent cette présence-là. Et c'est vrai. Donc, tout est contrôlé en ce moment-là. Il codifie sa vie. Tout est mesuré. Voilà. Donc, commençons par la parole. La parole doit être mesurée, car Dieu dit, ou le prophète dit, qui va mener un hadith, ou bien un verset. Non, monsieur, là. Man salim al-muslimouna. Ah, man salima. C'est l'islam. C'est as-salam, la paix. Les autres sont dans la paix par rapport à ce que tu dis. Ils sont à l'abri. Et c'est vrai, c'est ça la paix. Tu ne dis pas n'importe quoi. Un verset, oui. Ma yalfidhu min qawlin. Adayhi raqibun akhidhu. Alors, donc la parole est mesurée en ce moment-là. Alors, ça c'est un point à relever. Donc nous avons commencé par Iman, Islam, Iman, on arrive à ce stade-là maintenant. Muhsin par sa langue, Muhsin par son regard. Il ne regarde pas partout. Et c'est vrai. C'est quand on regarde le mauvais qu'on reçoit le mauvais dans son cœur. On emmagasine ce qui est mauvais là. Et ce mauvais-là va engendrer quoi? Un acte mauvais. Et c'est vrai. Mais quand on contrôle le regard, ça veut dire, il y a un hadith qui dit que celui qui refuse de regarder le haram, qu'est-ce qu'il vient en contrepartie? Il a dit quelque part, halawat al-iman, lazat al-iman, la douceur, la saveur de la croyance. Il a dit quelque part aussi, awrasahu Allah hikmah, il te donne la sagesse. Le fait de ne pas regarder le haram. Et l'autre qui a regardé, il procure peut-être un petit bénéfice. Et après seulement c'est le chagrin. Ne pas avoir cette femme qui est à cette démarche-là. Il va mourir en ce moment de chagrin. Et certains même se livrent à quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui la masturbation. Beaucoup de jeunes font ça. Masturbation. Parce qu'il n'est pas marié. Il a trop regardé. Il a augmenté son envie et il n'a pas la possibilité de se marier. Mais il faut passer par d'autres manières. Et c'est vrai. C'est la souffrance. Quelqu'un m'a appelé, je dis que ça fait 10 ans qu'il est dans cette pratique-là. 10 ans. Il dit, toi tu vas finir par devenir aveugle. Parce que ça rend aveugle. Ça, la faculté de choses, ça diminue tout. Ça détruit. Car lorsque le bon Dieu dit, comme un attaque à Zalika, comme l'Adoun, l'imam Ahmad dit que ça fait partie aussi de la masturbation. Et c'est vrai, le fait de regarder, le fait d'écouter les propos malsains, d'écouter les critiques, d'écouter celles que vous voyez. Donc, chers frères, nous sommes arrivés à un certain niveau où cette base-là fait du musulman en tout cas un vrai, vrai, vrai acteur de paix. Que les Ford Mani, ni les Obama, à ceux qu'on a attribués, même Nobel même. Vous pensez que Nobel, c'est le nom de quelqu'un là? C'est le nom de quelqu'un. que lui-même, jamais, ne peut pas lancer ces bases-là. Donc, le degré de Al-Ihsan. C'est pourquoi les prophètes, vous voyez les prophètes là, et ils ont atteint ce degré. Non. Le prophète Moïse, lorsqu'il est parti à Madian, il a trouvé un groupe de gens en train de puiser de l'eau. Et lorsqu'il voit les deux femmes là, incapables de faire la même chose, alors il a posé la question. Tout de suite, hein, Al-Ihsan l'a emporté, l'a conduit à porter secours à ces deux femmes-là. À secourir les deux femmes-là. Donc, leur éviter la peine, leur éviter le mixage avec les hommes. Il a pacifié le climat. Et se voyez. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, hein, lorsqu'il a raconté son histoire à leur papa, hein, la taqaf, innaka liyawma ladina, non, innaka minal amin. Non, aujourd'hui, tu as la paix parce qu'il a, tu as créé un climat de paix à la cour de mes filles. Donc c'est comme ça. Les prophètes, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils ont atteint ce niveau-là. Je vais me venger, je vais te frapper, je vais faire telle ou telle chose, c'est parce qu'on n'a pas atteint ce niveau. Naam, wa afina anina, ceux qui pardonnent abondamment. Naam, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Naam, donc si nous prenons le cas, nous allons terminer avec le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les trois piliers là sur lesquels nous allons baser, en tout cas nous allons fonder notre paix: l'islam, al-iman, al-ihsan. Alors, nous pouvons aussi aller, il y a la quête du savoir, il y a la justice, il y a beaucoup de choses. Alors, mais nous allons nous contenter seulement de ces trois-là, qui sont largement suffisants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, alors, avec l'islam, avec cette base, alors l'homme a pour mission en ce moment-là de délivrer l'homme. Quand tu vois quelqu'un fumer, tu vois quelqu'un fumer, tu as pitié de lui. Tu as pitié de lui. Tu vois quelqu'un mettre la main sur l'épaule d'une soeur, d'une fille, tu as pitié de lui. Tout de suite, tu veux bondir sur lui, pas pour le faire du mal, mais pour le sauver de cette situation-là. C'est ça le rôle du musulman. Nous, en tant que musulmans, Allah a fait descendre le Coran sur nous, il nous a éclairé la route pour que, à notre tour, alors nous portons cette lumière-là. Alors, aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Ibrahim, Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu Ilayka Litukhrijan-nasa minaz zulumati ilan nur. Nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc, le musulman, alors, avec ses bases, alors, devient le vrai acteur de la paix. Alors, posons-nous maintenant la question, alors, pourquoi le musulman souvent peut être violent? Est-ce la violence carrément prohibée ou interdite? Est-ce que le prophète n'a pas fait le djihad? Oui, le djihad a existé. Le djihad a bel et bien existé. Mais à l'origine, le musulman est pacifique. Le musulman a pour rôle de délivrer son prochain, d'amener la paix dans le monde. Car c'est dans la paix qu'on peut prêcher. C'est dans la paix qu'on peut faire ces choses. On peut cultiver. Alors, toutes les activités humaines, alors, sont possibles dans la paix. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'an 6 de l'Hégire, après avoir signé la paix avec les Mécois, a eu l'opportunité maintenant de propager sa mission, alors, à travers le monde. Donc, 4 ans seulement de da'wah, après l'an 6, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu en tout cas répandre la religion. Alors, puisque ce qu'il n'a pas pu faire dans les autres années précédentes. Donc, c'est dit que c'est la paix qui favorise l'avancée de l'islam. En ce moment-là, nous sommes capables, nous avons la possibilité d'enseigner, d'ouvrir les écoles des médersas, de faire les prêches. Si aujourd'hui, nous étions vivant le cas de la situation de Bangui, où il n'est pas possible même de faire que ce soit, quoi que ce soit, je pense que dans cette situation-là, on ne peut pas faire avancer la religion. Alors, oui, le djihad a bel et bien existé. Mais dans quel cas? Est-ce que le djihad alors, est un objectif? Est-ce que la guerre en tant que telle? Vous voyez la différence entre l'islam, la guerre en islam et la guerre chez les non-musulmans. Non, la guerre a toujours existé depuis que la haine a existé entre les humains. Ça ne finira jamais. On ne pourra jamais enterrer la hache de guerre. Tu l'enterres ici,
Et va sortir de l'autre côté. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'homme est appelé à agresser l'autre. Et tout le monde n'est pas appelé à être musulman, à être pacifique. Il y a toujours des mauvaises volontés dans la communauté humaine. Non. Donc dans ce cas, alors il y a eu un djihad en islam. Mais le djihad n'est pas un objectif. Alors, si les autres ont fait la guerre, on déclare la guerre pour pouvoir punir des peuples, pour pouvoir occuper des ressources minières, alors pour pouvoir asservir des peuples. Mais en islam, non. La guerre est un dernier recours. La guerre est un dernier recours en islam. Non. C'est ça la différence entre les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors si je peux résumer les guerres qu'il a eues à livrer contre les mécréants, je peux diviser en trois catégories de combats que le prophète a mené. Le prophète n'est pas un djihadiste. Non. Le prophète est d'abord un homme de paix. Il est un pacifique. Mais il a été, en premier lieu, la première guerre qu'il a livrée, il a été agressé. Il a été agressé, trop, c'est trop. On l'a empêché d'adorer son Seigneur dans l'enceinte de la Kaaba à la Mecque. On l'a expulsé de celui, en sortant même de la Mecque, il a versé des larmes. Car c'est malgré lui qu'il quitte sa cité, l'a quitté de sa cité de son enfance. Et à Médine, une fois là-bas aussi, on dit non, tu ne vas pas adorer ton Seigneur à Médine aussi. On veut l'empêcher aussi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à Médine. C'est là qu'Allah a dit, trop, c'est trop. Alors prends ton courage maintenant, je vais t'aider à le contre tes adversaires. Donc, si je me pose cette question, alors, où se sont déroulées les trois guerres, trois grandes batailles de l'islam, notamment la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de Khandaq. Ces trois batailles-là, c'est où? Hein? Ces trois batailles-là sont déroulées où? À la Mecque. Où ça? Hein? À Médine. Donc ça veut dire que le prophète a été attaqué dans son fief. Il a été agressé à Médine. Donc il n'a fait que repousser l'agression. À Badr, à Uhud, à Khandaq. C'est comme ça. Donc la première catégorie de combat que le prophète a livré contre les adversaires n'était autre que la guerre défensive que même la loi internationale reconnaît comme légitime. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Quand on t'attaque. Parce qu'il y a souvent il y a ces cas-là. Même aujourd'hui, quand on vient attaquer le Burkina Faso, nous sommes appelés à défendre notre nation. On appelle ça la légitime défense. Donc la première guerre que le prophète a livrée contre les adversaires était ça. Et secondo, il y a ce qu'on peut appeler aussi la guerre punitive. Une guerre punitive. Guerre punitive comment? Vous savez que dans les normes, même dans l'Antiquité, il n'était pas question de porter atteinte physiquement à un émissaire. Quelqu'un qui fait des va-et-vient entre deux communautés pour amener la paix entre eux, il n'est pas question d'attenter à sa vie. Et malheureusement, dans la bataille de Mouta, le prophète a envoyé un certain Harith avec une lettre de donner à Azim Bousra lorsqu'il a été décapité par celui-ci. Je te donne une lettre de donner à quelqu'un, arrivé seulement le prendre dessus. Donc ce qui équivalait à une déclaration de guerre à cette époque même. Le prophète a mobilisé 3000 hommes alors pour en tout cas aller punir ces gens-là. Donc on appelle ça guerre punitive. Non. C'est comme le cas de nos frères aujourd'hui à Guantanamo. Est-ce que si vous avez la capacité militaire, vous serez maintenant dans l'incapacité de secourir vos frères qui sont à Guantanamo ou en Birmanie? Mais ce n'est pas le cas. Donc il y a souvent des cas où obligatoirement le musulman est appelé à secourir son frère. Non, à se préparer militairement pour aller secourir ceux qui sont opprimés à cause de leur religion. Donc il y a ces deux catégories aussi, cette deuxième catégorie de guerre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a livrée. Même la conquête de la Mecque, la circonstance est laquelle? Il y avait un pacte entre lui et puis les Mécois, à l'an 6 de l'Égypte qui a été signé. Parmi lesquels, alors, mes alliés sont tes alliés aussi. Porter atteinte à mon allié, c'est m'attaquer à moi. Parmi les clauses, hein. Donc il y avait une tribu appelée Al-Khuza'a qui était alliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre tribu appelée Banu Bakr qui était alliée aux Mécois. À la grande surprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire
Banu Bakr ont attaqué Khuza'a lorsqu'il était en train de puiser de l'eau. Ils ont attaqué Nutama, les poussé même jusqu'à se réfugier dans l'enceinte de la Kaaba. Et se voyait. Et on a violé carrément l'état sacré même de la Kaaba à ce jour-là. C'est là maintenant que le prophète a pris la nouvelle. Alors c'était dans les clauses là, il n'était pas question alors d'attaquer les alliés aussi. Et le prophète a décidé maintenant d'aller conquérir la Mecque. Parce que ce sont les Mécois qui ont violé alors cette convention-là. Donc voilà, on appelle ça une guerre punitive. Voilà. La troisième guerre maintenant que le prophète a livrée est ce qu'on appelle la guerre préventive. Prévenir la guerre. C'est-à-dire s'assurer effectivement que l'adversaire est en train de se préparer pour t'attaquer. Alors si tu attends jusqu'à ce qu'il t'attaque, il va te vaincre. Et les Occidentaux même disent que la meilleure défense c'est d'attaquer. Mais chez eux, en tout cas, ils profitent des mauvaises enquêtes alors pour attaquer les peuples. Parce qu'ils ont menti sur l'Irak, ils ont menti sur la Libye. Ils mentent. Mais en islam, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie alors quelqu'un pour faire vraiment des enquêtes minutieuses alors pour lui donner la réponse crédible. Alors quand on vient dire au prophète effectivement que telle tribu est en train de se préparer pour attaquer Médine, en ce moment le prophète, en tout cas, il passe à l'attaque. C'est ce qu'on appelle la guerre préventive. Donc, toutes les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les ai recensées quelque part comme ça, alors pour les répartir dans ces trois groupes, trois catégories-là. Alors, ça a été légitime. Sinon, à priorité, regardez même sa dernière bataille de Tabouk, en l'an Rajab, en l'an Tassim, la Hijra, en l'an 9 de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que les Romains, les chrétiens se préparaient en Syrie pour attaquer Médine. Alors, il est sorti. Il a mobilisé presque 30 000 personnes pour aller en tout cas défendre en tout cas sa patrie. Mais arrivé là-bas, une fois sur les lieux, il a trouvé effectivement que les chrétiens ont eu peur, ils ne sont pas venus. Alors si le prophète était parti pour la guerre, il aurait continué son chemin. Mais ça n'a pas été le cas. Il a rebroussé le chemin pour regagner Médine, pour montrer effectivement que c'était pour repousser une agression imminente et une agression potentielle. Mais comme ils ne sont pas venus, lui n'est pas là pour la guerre, il s'est retourné à Médine. Donc grosso modo, il y a la guerre en islam, mais c'est quand le musulman est agressé, c'est quand le musulman il est offensé quelque part à cause de sa religion, comme le cas de nos frères en Palestine, en Birmanie, ainsi de suite, les musulmans sont appelés en tout cas de les secourir. Non. Il y a aussi la guerre préventive. Toutes ces catégories-là sont permises en islam. En dehors de ça, il n'est pas dit aux musulmans de changer obligatoirement par la force les gens. Là, Ikrah a dit. Se lever comme ça, vouloir obligatoirement prendre des filles de Chibok, les obliger à se marier à des djihadistes, à des prétendus djihadistes, les obliger à porter le hijab, obliger quelqu'un en islam, non, ça n'existe pas dans la religion. Non, ça ne fait pas partie de notre religion. Non, donc ce que nous constatons aujourd'hui comme action violente au nom de l'islam ne fait pas partie de l'islam. C'est la conclusion que nous pouvons tirer de tout ce que nous venons d'entendre. Naam. L'islam, effectivement, fait la guerre sainte, appelée al-jihad. Jihad même est l'effort que nous fournissons dans notre vie quotidienne. Naam. Ce que nous sommes en train de faire comme ça est un jihad verbal. Un jihad, ça fait partie du jihad, faire de l'effort, déployer des moyens colossaux, inviter des étrangers des autres pays pour qu'on échange, on se connaisse mutuellement, on fasse une lutte commune contre un fléau, tout ça fait partie de al-jihad. Naam. La construction d'une mosquée, d'une médressa, la propagation du savoir, se disperser dans les contrées pour propager la da'wa, tout ça là c'est le jihad. Mais le jihad, alors dans sa phase actuelle, alors ne reflète pas ce que nous connaissons à travers nos textes. Naam. Vouloir changer du coup le monde en utilisant la violence et en s'attaquant à des innocents, en faisant des attentats où sont les innocents qui meurent, procédant à des enlèvements, bon, ainsi de suite. Bon, ces actes-là, en tout cas, on n'a pas vu dans un texte, en tout cas, la confirmation de ces actes-là. Donc, c'est dire effectivement que alors nous soupçonnons une messale contre derrière ce fléau, alors pour ternir l'image d'une religion qui est si belle. Car depuis le début, les mécréens ont su que cette religion-là, on peut pas l'arrêter alors avec la force physique. Mais il faut passer par ce qu'on appelle le chaou, Allahu, la propagande contre la religion. Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran-là pendant sa récitation. Le fait du chaou, Allahu, des propagandes contre lui. Et c'est pourquoi même autant de prophètes, il y a eu des propagandes. On a menti sur le prophète. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais par finish, au finish, l'islam a fini par prendre le dessus. Il est dit, « Au nour Allah, bi'afwahihim, wa ya'ab Allah, illa yutim nourahu, wa law kariha al-mushrikoun. » Ils veulent éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur parole. Non, mais Allah refuse jusqu'à parachever sa religion, inshallah ta'ala. Donc, chers frères, je pense que nous allons ouvrir maintenant la phase questions-réponses. Alors, pour ceux qui ont des questions à poser, en tout cas, je suis disposé. Voilà, par la grâce d'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Parmi en long et en large, et puis c'est que la paix en islam, c'est que la paix en islam. Donc il a donné une définition de la paix, pour la définition qui est connue, le commun, n'est-ce pas, des gens, qui est que la paix, c'est l'absence, n'est-ce pas, de hostilité, l'absence donc de guerre. Au plus, c'est cela la paix. Et donc le docteur nous a démontré que ce n'est pas ça la paix. La paix d'abord, c'est une paix interne. Une construction interne. Donc, avant que ce soit un comportement, c'est une construction. Et il a dit, le titre, la paix n'est pas un mot, mais c'est d'abord une construction, ensuite un comportement. Ce n'est pas un vain mot, une construction d'abord, et ensuite un comportement. Nous avons également parlé donc de des dimensions de la paix. La paix, donc, en islam, a des dimensions. Et parmi ces dimensions, nous a rappelé qu'il est important que nous ayons une paix avec le Créateur donc des mondes, que nous ayons une bonne relation avec lui, que nous soyons en paix avec lui. Il nous a également dit qu'il est important que, après cela, que nous ayons également la paix avec nos serviteurs. Alors, donc, c'est sur ces bases-là donc, que la paix véritable peut être fondée. Une paix qui n'a pas donc de fondation solide ne saurait être une vraie paix. Donc ceux qui prônent la paix, alors qu'il n'y a pas de fondation solide, alors on dit que ces personnes sont en train de divaguer, mais ce n'est pas donc le vrai vecteur de la paix dans la société. Et donc le docteur nous a également démontré que l'islam est une religion qui est pacifique à la base. C'est une religion de paix, une religion, d'accord, qui a été donc envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui est la paix, qui a envoyé des hommes de paix, afin d'appeler les gens vers la demeure de la paix de laquelle ils ont été expulsés. Donc l'islam, c'est la religion donc, de la paix. Mais toutefois, il arrive souvent que alors, le musulman agisse, n'est-ce pas, par la violence, même sous certaines conditions que donc, le docteur nous a rappelées. Donc il y a des guerres qui ont été menées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des guerres alors défensives, des guerres. Il y a des guerres offensives et des guerres également préventives. Et tout ça, donc, sont démontrés donc, dans l'histoire du prophète Mohammed. Donc, je ne vais pas refaire la conférence du docteur. Alors, nous allons maintenant ouvrir une liste d'intervenants qui veulent poser des questions au docteur. Alors, nous allons demander, dans un premier temps, à ceux qui veulent poser des questions. Donc, je vais enregistrer. D'accord. Donc, je vais enregistrer. Et également, les questions qui doivent être posées doivent être en rapport avec le thème. Ce n'est pas une série de patawas. On va poser des questions sur le jeûne, sur la prière. Non. C'est sur le thème qui a été abordé, Islam et paix. OK. Et si on prend le micro, on pose une question. Je permets également à chacun de ce que chacun puisse poser sa question, Inch'Allah. On parle au grand Moussaïd. Alors, donc, on va ouvrir une liste de 5 personnes d'abord. Si le temps nous permet, on prend 5 autres personnes. Non, on prend les noms d'abord. Les noms d'abord. Oui, ok. Oui, le nom. Ça va, Dogo? Abou Falka. Oui.
Ouna.
Dida.
Ouda
Abouma. Ici? Oui. Abdul Kudus Nana. Oui. Quoi? Ismaël? Ok, Idriss. Et enfin, le dernier intervenant. Ici, il n'y a personne ici? Ok, je vais vous mettre là, oui. Maïka Amadou. Bien, donc nous avons 5 personnes. On va commencer donc par le frère Abou Bakr. Ça va, Dogo? Je peux lui mettre le micro.
Salam
alaikum.
Donc, on va essayer rapidement de compréhender qui nous a éclairé sur la paix. Maintenant, pour le camp d'Islam du Burkina Faso, nous avons une assistance. Des mouvements qui disent qu'ils sont en train de soutenir l'islam et les musulmans. Je ne sais pas, est-ce que les gens de la Fédération des Entrepreneurs Islamiques, est-ce qu'ils ont pu contacter des gens pour chercher à savoir réellement? Voilà, ça c'est la première question.
On a dit que chaque intervenant pose une question. Voilà.
Alhamdulillah, salat wa salam ala Rasulillah. Il y a un groupe qui a prétendu soutenir l'islam, s'est baptisé groupe de soutien pour l'islam des musulmans. Bon, mon frère demande si l'association, la fédération a mené, c'est-à-dire des initiatives pour rencontrer ces gens-là et chercher à comprendre leur motivation. D'abord, qui sont ces gens? Où sont-ils? C'est ça la question. Et moi, je peux prétendre que c'est de la propagande. Et il y a une force étrangère qui, pour déstabiliser nos pays et revenir encore rouvrir les bases militaires, ce sont ces forces-là qui sont à l'origine du phénomène. Je peux prétendre cela. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'on les rencontre seulement, on les tue, on ne les prend pas. Moi, j'aurais souhaité qu'on les prenne, alors effectivement, qu'ils soient détenus quelque part. Et là, maintenant, alors, les dignitaires religieux peuvent se déplacer pour aller les rencontrer, savoir effectivement leur motivation. Maintenant, mais tel n'est pas le cas. Même au Tchad, quand on les rencontre seulement, on tue. Voilà. Alors quand on tue, il y a quelque chose qu'on veut cacher. Et leur procès, ceux qui sont détenus actuellement à Guantanamo, leur procès, ils ne bénéficient pas d'un avocat, l'assistant d'un avocat par exemple. C'est lui qui nous. On ne sait même pas que les journalistes rentrent là-bas. Donc selon moi, ce sont des imaginations. Il y a une force de mal qui est là, qui est en train de se préparer. Les illuminatis, des trucs comme ça là, pour reformer le monde. Voilà. Donc, sinon, depuis que le phénomène a commencé, on n'a pas vu le soutien qu'ils ont apporté à l'islam. Montrez-moi un seul soutien. Ça ne fait que faire reculer les choses. Voilà. Maintenant, il faut toujours. Le fonds qu'on devrait mobiliser même pour faire avancer le pays là est en train d'être investi quelque part dans l'achat des armes. Vous voyez? Et ça permet à la France de revenir encore avec sa force. Les militaires qu'on a rencontrés en cours de route en venant ici-là, ce sont des Français. Des Blancs. Je ne dis pas des Français, des Blancs. J'étais toujours des Blancs. Donc le Blanc est revenu encore militairement dans le pays. Alors qu'il était chassé à un certain moment donné. Est-ce que vous savez que Kidal, Modibo Keïta, en 1963, avait décrété la fermeture de la base militaire française à Kidal? Mais maintenant, avec les événements là, la France est revenue encore rouvrir sa base militaire là où elle était chassée par Modibo Keïta. Ça a favorisé qui? Ça a aidé qui? Ça n'a pas aidé l'islam, mais ça a plutôt aidé la France. C'est comme ça que moi je fais mon analyse quoi. Non. Groupe de Syriens à l'islam et aux musulmans. C'est qui? Qui a créé ce groupe là-même? Qui a créé le groupe? Qui leur a montré la manipulation des armes? Ce ne sont pas des militaires. Moi aujourd'hui, tu me tends une arme là. Je connais la gâchette seulement. Mais comment mettre les trucs là-même, je ne connais pas. Comment actionner les chargeurs? Je ne connais pas. Il faut quelqu'un pour, en tout cas, faire une bonne formation à ces gens-là. Donc, je soupçonne quelque chose. Voilà. Et si effectivement, c'était des hommes visibles comme vous, qui étaient détenus quelque part, je peux même être, je veux dire, involontaire pour aller, en tout cas, les rencontrer et connaître ce que nous allons prêcher. Mais sachez qu'au temps du... Après le prophète, c'est ce qu'on appelle, on appelait Al-Khawarij à leur époque. Al-Khawarij, hein, Ali ibn Abi Talib, avec sa science et sa éloquence, avec sa sincérité, n'a pas pu dissuader presque 30 000 personnes de ces gens-là qui ont refusé de l'écouter. Et quand Satan, quand tu te bases sur Satan, en tout cas, tu fondes ta doctrine sur Satan, sur les choses erronées, en ce moment-là, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Voilà, mais moi, j'aurais souhaité effectivement qu'il soit détenu quelque part pour que, alors, comme le frère a fait sa proposition, pour que effectivement la fédération, et moi-même, je serais en ce moment-là volontaire pour aller les rencontrer. Nous avons des mots à leur dire. Non, mais tel n'est pas le cas. Chaque fois, on l'a tué. Bon, il faut l'arrêter, il faut le blesser, l'arrêter, l'emprisonner quelque part, le soigner, c'est parce qu'il soit guéri, pour qu'on parte le demander qui t'a envoyé, qui t'a donné, c'est-à-dire entraîné à la manipulation des armes. Il faut qu'on sache ces choses-là. Non, ça c'est méconnu, c'est flou. C'est flou. Et jusqu'à présent, on ne voit pas le soutien qu'ils ont apporté à l'islam. Nous ne voyons pas le soutien qu'ils ont. En tout cas, moi, ils ne m'ont pas aidé. Si c'est votre islam qui l'a dit, en tout cas, je ne connais pas en tout cas le soutien qu'ils ont apporté à l'islam. Depuis qu'ils ont commencé, ils ne font que durcir les choses. Pour entrer dans les avions, on procède à des fouilles. On fouille maintenant. Même les trucs là, les caméras là-même sont fouillés. Dans certains avions. Voilà. On a durci les mesures de sécurité. Parce que les gens souffrent. Et les fonds qui étaient censés venir aider les musulmans à s'épanouir et à se développer, ces fonds-là se font rares aujourd'hui. Hein? Moi, je vais construire une médressa. Je n'ai pas la capacité. Mes amis sont là en Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas m'aider. Tout est contrôlé. Tout l'argent qui sort de l'Arabie Saoudite est contrôlé. Même les Saoudiens qui viennent à l'extérieur, on procède avec des forces. Alors, au-delà de 3 000, 4 000 milliards, on dit, mais tu vas aller aider quel terroriste. À un certain niveau seulement, on te dépouille, on prend le reste, et puis on te donne le peu qui peut te suivre pour ton séjour à l'étranger. Vous voyez? Donc, ça n'a pas aidé l'islam. Ça n'a pas aidé l'islam. Dans certains pays, les femmes ne peuvent pas se voiler. Dans certains pays, les mosquées. Au Ghana, tout près là, il y a un projet de loi pour interdire l'appel à la prière. On veut que ça se passe par les réseaux sociaux. Est-ce que ces gens-là ont aidé l'islam avec ces pratiques-là? Non, subhanallah. Non, donc c'est pas évident.
Ok, avant de dire docteur pour cette réponse, le prochain intervenant c'est le frère Abdullah Bouda. Allez, le micro.
Avant la conclusion. plusieurs de notre hôpital de l'Université de la Côte-d'Ivoire, on a constaté que nos femmes et les pères, chaque fois, au niveau des maternités, des de prévention, avec des sages-femmes, des étudiants.
Elles sont harcelées à cause de leur religion. Voilà. Non. La cohabitation pacifique. Non. Non. Inch'Allah, j'ai compris la question. Le frère demande. Alors, nous on demande à ceux qui aient une cohabitation de vivre ensemble au Burkina Faso. Alors, pourtant, il y a des actes insensés qui se posent quelque part, au niveau des hôpitaux, où des sœurs sont harcelées. Ce ne sont pas des hôpitaux seulement, même dans les écoles. Dans les écoles, on rejette maintenant les barbus, on regarde les pantalons sauter, on dit que non, ça ne va pas ici. Et le voile islamique dans les établissements. Même tout récemment, le jour des examens de BPC, on a eu des cas comme ça. On a eu des cas comme ça. Lorsque c'est un frère qui est un de mes élèves, qui a défendu la cause des sœurs là-bas. Qui a dit que non, lui n'est pas d'accord. Même s'il va faire la violence ici aujourd'hui. Le voile n'a rien à voir avec l'examen. Ça ne perturbe rien. Donc c'est ainsi que le contrôleur a été obligé de, en tout cas, laisser passer la chose. Sinon, d'un coup, alors, il y en a même qui sont irrités quand ils voient le voile là. Voilà, c'est pour vous dire effectivement que c'est l'islam qui est la religion de la paix. Toujours les hostilités sont commencées par les autres. Nous devons connaître cela. La paix mondiale est toujours perturbée par les non-musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui sont à l'origine. Non. Et ça commence au Burkina Faso comme ça. Ce ne sont pas les musulmans qui ont commencé par harceler les autres femmes. Non. Mais ce sont les autres là qui ont commencé par harceler les musulmans. Sachez que dans tout le monde entier, c'est comme ça. En Afghanistan, les talibans demandent l'histoire. Alors, qui a attaqué qui? On va vous dire que les talibans ont pris le pouvoir pour appliquer la charia en Afghanistan, pacifiquement. Ils avaient leur leader appelé Mullah Omar. Ils avaient initié, ils ont fait le djihad, 13 ans de djihad pour parvenir un jour à appliquer la charia en Afghanistan. Les États-Unis ont dit que non, appliquer la charia en Afghanistan là, net, ça ne se fait pas. Au sein de George Bush, père, George Bush qui est un va-t-en-guerre, il a dit que ça ne se fait pas, qu'il n'y a pas le droit de la femme, il n'y a pas le droit de quoi. Ils ont commencé à mentir sur eux. Ils ont attaqué l'Afghanistan avant d'attaquer l'Irak. Je me rappelle le président égyptien à l'époque, Hosni Moubarak, dire qu'ils ne peuvent rien contre l'attaque d'Afghanistan par les Américains. Mais si toutefois, le jour où les Américains vont tenir les armes contre l'Irak, parce qu'ils sont en train de menacer l'Irak aussi, là il faut que les Arabes se lèvent. Il a tenu ce propos-là. Après l'Afghanistan, les États-Unis ont attaqué l'Irak aussi. Le même Moubarak là a envoyé des contingents pour aider l'armée américaine. Vous voyez, ce sont les amis là. Donc, c'est dire, je vais conclure que chaque fois, chaque perturbation de la paix dans le monde, ce sont les non-musulmans qui commencent. En Afghanistan, ce sont les Américains qui ont attaqué les talibans. Les Shabab en Somalie, les Shabab ne sont pas des Américains. Ils sont en Somalie, ils veulent appliquer la charia. Ça a commencé par les tribunaux islamiques. Les tribunaux islamiques. La population avait confiance à ce tribunal-là que d'aller dans les tribunaux laïcs. Donc, leur affaire a commencé à prendre de l'ampleur. Les États-Unis ont dit que non, ce n'est pas possible. Donc ils ont mobilisé des contingents. Des Africains. Museveni a des soldats là-bas. Le président Kagame, Paul Kagame, a des contingents là-bas. Le Burundi, peut-être même des Burkinabés sont là-bas. On a mobilisé toute l'Afrique d'aller chasser les Shabab chez eux. Que le monde ne peut pas admettre l'application de la charia, cette barbarie-là, cette inhumanité au 21e siècle. C'est ça, il faut comprendre la chose comme ça. Maintenant, la guerre continue parce qu'ils ont été déstabilisés. Et aussi, ils sont étrangers quelque part. Alors, pour repousser l'agression des agresseurs, parce que c'est comme ça. Donc, le cas du Burkina Faso, nous ici, nous construisons nos écoles, même à l'école franco-arabe, où moi j'ai fait le CP1 là. Hein? Il y avait des chrétiens aussi parmi nous. Les musulmans ont toujours été pacifiques. Non, mais c'est les autres là qui commencent. C'est pourquoi je vous ai dit que les minorités religieuses vivent en paix sous l'ombre de l'islam. Les juifs ont eu la paix dans le pays, dans le Maghreb et dans le pays musulman. Ça a été toujours comme ça. Mais c'est eux qui commencent toujours. Donc, avec ce commencement, ils ont commencé à harceler les sœurs musulmanes. Et c'est grâce à la fédération et grâce à nos interventions, chaque fois quand les jeunes nous appellent pour dire qu'ils veulent user de la violence, une fois même, il y a des jeunes qui sont préparés comme ça pour aller attaquer un hôpital là, l'hôpital de Karpa là. Hein? Comment il s'appelle là? Il y a des jeunes qui s'étaient mobilisés pour eux. Parce qu'on a obligé sa femme à se dévoiler. Même à l'hôpital de l'Est Comporé. Un frère a amené sa femme là-bas et la bagarre a éclaté. Ce sont les patients là-même là, les malades là qui ont intervenu pour cesser la bagarre. Lui a dit que non, tout c'est trop. Ma femme m'appartient, elle vient se soigner ici. Son voile ne gêne pas les soins. On veut l'obliger à son objectif. Donc ce sont les autres non-musulmans là qui s'attaquent en premier, qui s'attaquent aux musulmans. Et c'est le cas de votre prophète. Il a été attaqué jusqu'à ce que Dieu lui autorise maintenant de se défendre. Voilà. Donc, c'est ça qui résume en gros tout ce que nous venons de dire. Que la religion musulmane est une religion de paix, mais ce sont les autres là qui perturbent cette paix là, qui nous attaquent, et finalement nous sommes obligés de riposter. Non. Tu as compris? Inch'Allah. Tara nous assiste. Mais on ne dit pas de riposter. Pour le moment, il y a des mesures pacifiques dans les écoles. Ça, vous maintenant faites des conférences de presse pour, en tout cas, regardez même le 5, il y a eu le procès dans l'histoire de Kuitenga, le journal là. Hein, il y a eu le procès. Les gens voulaient faire la brutalité alors contre le journal et contre ceux en tout cas qui ont menti sur l'association là. Mais on a toujours prôné la vérité, la paix. On a toujours dit non. Alors, user de la loi, utiliser la loi brutale. Le Burundi est un pays de droit. Utiliser cette loi-là contre ces mêmes instances-là. Et c'est le cas. Donc, à notre stade, on n'a pas atteint au niveau où vraiment, alors, quelqu'un peut se lever comme ça, utiliser la violence pour changer ces donnes-là. Non. Toujours, nous prenons toujours la paix. La situation est toujours maîtrisable. Non. Par le dialogue, par la compréhension mutuelle, nous allons nous en sortir, Inch'Allah. Non.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Comment? Quels sont ces problèmes-là?
Parce que souvent, les gens qui prennent des exemples, ils se trouvent dans les villageois, disons, les gens de la poussée.
Les bédouins.
Les bédouins.
Arabes.
Voilà, qui sont venus prier et qui viennent dans les mosquées. Et le prophète ne les a pas interdit quelque chose. Les gens prennent des gens de choses souvent pour dire qu'avec des noms créants, on peut faire tout. Soit souvent, les prophètes qui rentrent avec des créants malades.
La tolérance que le prophète a. Prends cette tolérance. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons trois catégories de personnes. Ceux qui ont accepté karma, les vivre ensemble là, ils se sont fondus maintenant. Ils sont perdus dans l'autre entité. Il y a ce côté-là. Ça, c'est mauvais. Il y a un groupe aussi qui rejette catégoriquement tout le monde. Ça, c'est mauvais. C'est le juste musulman qui est là, ici. Alors, vivre ensemble ne veut pas dire perdre ta religion. Nuire à ta religion. Non. Ça, je n'ai pas été dit. Il y a des limites. On peut rendre visite à un malade non musulman. Le prophète a fait ça à au petit juif là, qui lui a apporté de l'eau pour ses ablutions. On peut lui rendre visite. On peut rendre visite même à un mort non musulman. Musulman, on ne dit pas Yaqtullahu lak, qu'Allah te pardonne. Il ne sera pas pardonné. Voilà, on peut le rendre visite. On peut l'assister même financièrement. Toutes ces choses-là sont possibles. Mais il y a des limites. Non. Ces parents qui sont, il y a chose Abir al-Wajib ou Abir al-Sunnah. Non. Alors, la justice entre nous et eux est une obligation. La non-violence est une obligation. Le respect mutuel est une obligation. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses comme ça qui sont, que nous partageons. Mais ne participe pas à ces fêtes. Tu vois les limites? Quand il a des fêtes comme ça, non. Là, comme dit, nous ne dit pas de la fête. La fête est une religion. Donc, on vit ensemble, mais on se respecte mutuellement. Mais toi, tu veux que je te respecte, mais tu ne me respectes pas. Voilà, c'est ça maintenant qui amène des problèmes. Voilà, tu veux, je te laisse faire tout, mais toi, tu ne me laisses pas faire le mien. Ça, c'est vraiment, ça perturbe carrément la question. Non. Le bédou qui arrive en révolution, le prophète l'a laissé faire. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? De laisser les gens aller entrer dans les mosquées et venir quoi? Parce que le prophète a dit ça. Hein? Quelle est ta question aujourd'hui?
Les enfants qui ont c'est par rapport
avec les non-musulmans. Mais les laisser pénétrer dans les mosquées là, et venir. Hein? À la religion. La question même n'est pas claire.
C'est la tolérance de vivre ensemble, prennent souvent ça, comme il faut tolérer. Donc avec le fait qu'ils
disent. La tolérance est normale. Tolérer quoi? Tolérer ce qui est tolérable. C'est ça? C'est tout. C'est vrai. Chaque chose a des limites. Voilà, la coopération, regardez, le G5 là. Actuellement, il y a collaboration entre ces pays-là pour lutter contre le terrorisme. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas autorisé le droit de poursuite. Le droit de poursuite. Si on autorise aux Maliens de rentrer avec les soldats comme ça, poursuivre les gens, ils vont être un jour comme ça, placés dans leur camp, devant notre truc. C'est nous qui les avons autorisés. Donc, là-bas, ils se sont limités. Voilà, on collabore ensemble dans tel ou tel domaine. Mais dans tel domaine, non, ça c'est une souveraineté nationale. Ça, c'est comme ça que c'est fait. Donc la religion a ses limites. On collabore avec l'autre là où on peut collaborer. Il n'y a pas de collaboration, chacun se contente en tout cas de.
C'est ce dont je parlais là. Ils vont se baser sur ces choses-là pour quelqu'un qui vient de saluer le coup, attraper sa main,
mais
c'est pas.
Bon. Non, chaque chose a ses limites. Chaque chose a ses limites. Voilà. Non, le jour de la fête musulmane, tu mets de la bière dans ton frigidaire parce que les non-musulmans vont te rendre visite. Cette tolérance n'est pas tolérable. Voilà. Tu serres la main à une femme de truie étrangère parce que tu veux vivre ensemble avec nous. Non. Ça, c'est tuer sa religion. C'est-à-dire en préférant la collaboration là, à notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que j'ai dit là. Alors, si nous préférons la consolidation de lien avec les hommes, ou bien la consolidation de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, partage le lien avec Allah, et à ce moment-là, il va amener le corps des hommes là pour toi. Non, ça c'est évident quoi. Non, donc le vivre ensemble, nous sommes à avoir vivre ensemble, mais, alors, pas question de serrer la main de la femme, à la femme étrangère. Non, il n'est pas question. Dans ma foi, je vis avec toi. J'ai même des voisins non musulmans. Des voisins non musulmans. Les jours ordinaires, je les rends visite. Je partage des cadeaux à leurs enfants. Mais le jour de la fête, non. Je ne pars pas. Mais eux viennent me saluer dans mes fêtes. Ma fête est vérité. Mais sa fête est fausse. C'est comme ça que je comprends les choses. Et c'est la réalité comme ça. Devant Allah, mais devant les hommes, non, c'est pas une vérité. Mais devant Allah, c'est une vérité. Mais nous collaborons avec Allah, c'est pas avec les hommes. On ne peut pas préférer nos liens avec les hommes, on peut même mettre ça au-dessus de notre lien avec Allah. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Donc, la collaboration avec ses limites. Non, je me rappelle, il y a beaucoup de fois, quand on se rencontre dans les assemblées, les femmes ministres qui viennent, par exemple, veulent serrer les mains d'elles. Mais quand ils arrivent seulement, elles arrivent, elles connaissent que nous, elles nous sortent. Par contre, c'est pour aller serrer les mains de certains chiots. C'est parce que lui, il a accepté. C'est dans ce contexte-là. Le contexte n'est rien. C'est l'homme qui est le contexte même. Voilà. Il faut apprendre, vous savez, le vivre ensemble, c'est nous qui allons forger ça ensemble. Que chacun montre ses limites à l'autre. Et le respect de ces limites-là va faire en sorte que le vivre ensemble va se consolider. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est grave. Hein. Il y en a qui rasent la barre parce qu'on a, j'ai peur de mon patron, il fait le cumul des prières là, parce qu'on a dit que si tu sors chaque fois prier Asr, Zohr comme ça, tu vas quitter le boulot. Bah, des trucs comme ça. Il faut user de la loi. Il y a un frère même qu'on a chassé du boulot comme ça parce qu'il a refusé de serrer la main de lui. Et puis il est venu à Ouagadougou. Ça commence comme ça. Mais il faut que chacun soit homme. Chacun est burkinabé là. À Koudougou, il y a une sœur qui a refusé de sortir de la classe. Les premiers coups de feu qu'on a assisté au Burkina Faso là, pim pim en l'air à Koudougou là. Qui a causé de ça? C'est une sœur. Le professeur l'a expulsé, elle a refusé de sortir. C'est ma classe à moi aussi. C'est vrai. Elle a refusé. Donc, un élève se lève, bon, voilà, ça peut tuer le. Donc, le musulman aussi, dans la loi, on peut te dire, l'enlève ton voile, je n'enlève pas. Tu es mon professeur, je te respecte, mais mon voile est ma religion. Tu n'enlèves pas. Fais ce que tu vas faire. Il te frappe. Tant pis. Ne porte pas ta main sur toi, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il ne craint pas Allah. Il te frappe, il faut le laisser frapper. Car Omar ibn Khattab, même pour embrasser l'islam, il a fallu qu'il agresse quelqu'un. Il a agressé quelqu'un et regretté après. Ça, c'est un moyen aussi d'avoir le cœur des gens. Être patient. Non. Moi, je suis allé pour inscrire ma fille à l'école. On dit qu'ici, non, c'est le port de la tenue scolaire là. Elle doit enlever son voile. J'ai dit, moi, ma fille a enlevé son voile à cause de l'école. J'ai posé la question là. C'est l'école là qui est mieux, mais c'est Al-Janna là. Le boulot que la fille va avoir ici là, avoir les 100 000 francs par mois là. Et Al-Janna, il faut me choisir l'un des deux. Il dit que c'est le paradis qu'on choisit. Il dit que si c'est le cas, le voile là, c'est pour avoir le paradis. Mais la tenue scolaire là, c'est pour avoir les 100 000 francs par mois là. Donc moi, je vais amener ma fille à la maison. Et je vais écrire dans l'observateur tout de suite qu'il y a Côte d'Ivoire qui a chassé ma fille de l'école. Et tu verras ce que les gens vont faire ici. Ah, il était obligé de faire une exception que toi, ta fille, on l'autorise de venir. Elle est venue comme ça avec son père. Il y a 5 autres filles encore qui ont profité de son membre là. Hein? Alors vous venez s'inscrire comme ça. Et puis c'est comme ça. Parce que je me suis arrêté, j'ai pris ma position. J'ai respecté ma religion. Parce que les gens ont le complexe. Dans le cas, on ne peut pas dire aux chauffeurs de s'arrêter, ils vont prier. Parce qu'on a l'habitude d'aller prier à Bobo Dioulasso, d'aller prier à Ouagadougou. Vous voyez? Mais tu conditionnes. Je rentre dans ton car là, à condition, arrivé à tel niveau, tu vas t'arrêter pour que, comme tu t'arrêtes, prendre les voies, prendre les passagers là, arrête, tu vas t'arrêter pour que je prie. C'est ton droit, non? Parce que les gens, ils prennent pas de vraies positions. Non, Inch'Allah.
Ok, donc avant de venir maintenant, tu dis ça.
Allô?
Ah oui. Moi.
Il devait oiseau. L'oiseau. Non.
Peut-être d'abord, je tiens à remercier pour remercier pour sa brillante intervention. Ma question est la suivante. Peut-être c'était l'islam et la cohésion sociale. L'islam est fait. Voilà. Et ici, il se trouve que nous avons des problèmes en ce qui concerne même entre frères. Parce qu'il y a certains frères qui s'abusent de ces conférences, les gens font ces conférences pour qui ne sont pas conseillés dans la religion. Par exemple, ils envoient des pauvres. Voilà. Qui n'est pas celle que le prophète nous a envoyé. Ils envoient bon, à vous, commission.
Ils envoient quoi?
Ils envoient des propos.
Des propos?
Oui, des propos, des fois même, voilà, des en appelle cela, et bon, cela fait partie de l'islam, et cela appelle la paix entre musulmans et les non-musulmans. Voilà. Et quels sont les conseils que vous avez à donner à l'égard?
Bon, c'est pourquoi je n'ai pas entendu. Quel propos?
Ok. Comme exemple concret, on organise, bon, comme le président de l'île dans le SP, on organise des choses voilà, qui ne sont pas comptées en réunion.
Comme quoi?
Voilà, un exemple, et les nuits de prière. Les nuits de prière qu'on organise dans les milieux instantanés, les juifs. Voilà que nous avons eu des choses, et cela n'est pas conseillé, mais bon, continuez de faire, soi-disant que cela appelle à la cohésion sociale, ça appelle à la paix entre frères et bon, ces genres d'activités. Bon, quels sont les conseils que vous avez à l'égard de vous-même, en tant que frère, pour votre vie?
Non, alhamdulillah, vous savez que vous, dans votre milieu, vous avez une culture qui vous domine d'abord. Vous avez une culture occidentale. Parler la langue de quelqu'un, c'est penser comme lui. C'est agir souvent comme lui, quoi. Donc c'est difficile de vous démarquer de ça pour le moment. Mais déjà, vous êtes sur la bonne voie. Le fait même d'accepter l'islam au sein de ce milieu-là, le contexte qui est défavorable, ça c'est déjà un pas. Donc je veux que, à ce niveau-là, vous diminuez un peu les querelles, quoi. Diminuer les querelles. Alors, celui qui ne veut pas faire ça, qu'il s'écarte. Celui qui veut faire ça, qu'il fasse, qu'il le fasse. Qu'il n'y ait pas entre conflit entre vous. Mais ce que j'ai à vous dire ici, ajoutez à cela, puisque à votre niveau, vous ne pouvez pas trancher sur ces choses-là. Vous ne pouvez pas trancher sur ces choses. Votre connaissance de la religion est un peu limitée. Voilà. Mais malheureusement, vous savez que même dans la langue arabe, il y a des spécialités différentes. Moi, par exemple, j'ai fait la langue arabe, la rhétorique arabe. Docteur Kindo a fait al-aqida, les dogmes. Entre les deux, il y a une différence. Mais les gens pensent que quand il y a docteur seulement, tout de la religion, en tout cas, te concerne. Alors que mon domaine spécifique, c'est la rhétorique. Il y en a qui ont fait hadith. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, vous, à votre niveau, vous allez voir, des autodidactes, lire seulement les livres traduits là et devenir des grands mouftis. C'est ça votre défaut, quoi. Parmi vous, il y en a qui font des fatwas. Alors que parmi vous-même, moi qui appelle la rhétorique là, il y a des fatwas que j'adresse à Dr. Karandiri à Bobo Jirassoui. Parce que c'est son domaine. Ou bien j'appelle Kindo pour le demander. Quand ça dépasse ma capacité, je m'intéresse à ceux en tout cas qui sont spécialisés dans le domaine, quoi. Mais vous, malheureusement, vous êtes dans les journaux, vous faites des fatwas. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre religion? Non, vous êtes contenté seulement de la traduction de Bukhari en français, la traduction du Coran en français, la traduction du Muslim en français, et déjà vous êtes des grands, grands érudits de la religion. C'est ça le défaut là. Donc maintenant, vous allez vous dire souvent que ça là, c'est faisable. Ça là, c'est comme ça. Vous voyez? Moi, souvent, j'ai lu des articles comme ça. Ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne. Est-ce que la construction d'une maison peut être attribuée à un médecin? En fait, de là, un médecin, les moyens de venir construire. Mais non! Donc, la religion, la même là. Même dans la langue arabe, là. Parmi les gens qui ont fait la médecine en arabe, qui ont fait la pédagogie en arabe, très bien. Beaucoup de gens qui enseignent dans la faculté de Dr. Carville, on fait la part bien. Vous voyez? Donc, il faut, ce qui cause le problème dans votre milieu estudiantin, c'est ça. Vous êtes permis maintenant de faire des grands, grands fatwas que les autres là. Moi-même, à Ouadougou, quand je fais des prêches, souvent, il y a des élèves qui ne viennent pas. Il y a certains de mes prêches qui ont été annulés. Parce que c'est un salafiste. Salafiste, c'est quoi? Ils ne comprennent même pas le sens. Que c'est un wahhabien. Wahhabien, mais c'est quoi? Tu dis wahhabien, l'ange l'a écrit. C'est contre toi. Ça, c'est pas un mot que moi-même j'ai choisi pour moi-même. C'est un adversaire qui m'a imputé ça, qui m'a collé ça, injustement. Il connaît même pas le sens. celui qui a amené la forme s'appelle Muhammad. Muhammad ibn Abdullah. Donc le nom de l'islam était quoi? Muhammadiyya. C'était ça le nom. Mais pourquoi appeler ça Wahhabiyya? C'est injuste. C'est incorrect. Mais vous allez voir des gens, des musulmans, hein, prendre ça, me dénigrer. Mais imaginez, dans la voiture, monsieur, on s'en va. Wahhab a l'an l'eau. Moi, je ne dis rien. Qu'est-ce que le Wahhabiyya qui passe comme ça? Moi, je sais qu'à l'endroit, j'ai eu une récompense auprès d'Allah. Je ne réponds pas. Tu m'agresses verbalement, tant pis. Moi, je ne dis pas de mal. Parce que moi, j'ai été éduqué par le Coran. J'ai été éduqué. Je m'empêche. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ma langue là, n'insulte pas quelqu'un. Et c'est vrai. Mais les autres là, vont m'insulter. C'est ça le problème. Donc maintenant, au lieu de venir vers nous demander, au départ, l'AMB et le circuit étaient formés par les arabophones. Au départ. Mais je ne sais pas par quelle acrobatie on les a pris. On les a pris loin. Maintenant, ce sont plus les arabophones. C'est eux-mêmes qui assurent la formation. Ils sont devenus maîtres. Ils sont devenus professeurs. Et, à notre grande surprise, souvent, ils ont des sorties nocturnes. Hein? Une fille m'a appelé un jour que, voilà, actuellement, là, ils sont en campement. Ils sont sortis en groupe comme ça, avec les aïmbis en groupe, hommes et femmes. Et puis, ils ont fait les tentes comme ça, à l'extérieur même de la ville. Qu'elle est là-bas. Je dis, mais qui t'a amené là-bas? Tu as une mahram avec toi? Un mahram qui te contrôle? Que non. Vous voyez? Donc, il y a cette tendance-là. Mais moi je les encourage, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas, mais le conseil que j'ai à les prodiguer, c'est toujours de s'abaisser, de conserver c'est-à-dire la modestie, et toujours d'écouter les savants. Les savants au Burkina Faso aujourd'hui, parce que quand on dit savant, ce n'est pas seulement le savoir, c'est la pratique aussi. Celui dont le savoir lui a été bénéfique. Le savoir a pu changer ses comportements. C'est cette personne-là qui est. Quand les éléments ont dit avant que Inna hadal ilma dinun, falyanzur ahadukum man ya'khudh dinah. Cette science-là, c'est la religion la même comme ça. Regardez où prendre votre religion. C'est-à-dire où prendre votre science. C'est pas seulement parce qu'il a une belle lecture du Coran, que tu envoies ton enfant apprendre le Coran chez lui. Alors que son comportement est mauvais. Il fait le maraboutage. Il fait le charlatanisme. Il fait la magie. Il fait le shirk. Des imams à Ouagadougou, des imams au Burkina Faso, qui font le maraboutage, mais qui sont imams, qui sont vos références. Mais ça, c'est erroné. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, moi, en tout cas, j'encourage beaucoup les aïmbis et les services, parce qu'ils ont comblé un vide que nous, on ne saurait pas faire. Mais, je leur demande encore d'accepter, c'est-à-dire, comme ils disent qu'ils sont neutres là, d'observer cette neutralité. Neutralité veut dire qu'il faut écouter tout le monde. L'autre jour, j'ai fait une intervention sur Facebook qu'on a lancée partout où j'ai dit, alors, si vous êtes d'accord que les confréries vivent dans nos pays, que toutes les confréries religieuses existent, pourquoi ne pas accepter aussi que la Sunna existe? C'est une tendance là. Non. Accepter que la Tidiane vive au Burkina Faso, la communauté musulmane vive au Burkina Faso. Toutes les communautés tendances là. Non, on est d'accord. Ça, c'est de vivre ensemble. Mais accepte-moi, moi aussi. Moi qui suis salaf là. Accepte-moi. Moi je t'ai accepté, il faut m'accepter. Mais par contre, ils sont neutres avec tout le monde, mais pas avec les salafistes. Ils sont neutres avec tout le monde. Ils écoutent tout le monde. On les invite, ils invitent tout le monde à faire les conférences. Mais nous, on a annulé 3 de nos conférences. Parce que quand on vient trouver que, c'est Sawado, non, ça, c'est pas ici. C'est pas ici, non. Va tenir des propos, c'est trop dur. Ils sont rigoureux dans les pratiques. Alors que tout ce que j'ai fait là, celui qui veut voir un plus dedans, qu'il m'informe. Sinon, je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'attraper. Si tu vois un plus, ce que j'ai fait, que le prophète n'a pas enjoint de faire, il ne cesse pas de me prodiguer le conseil. Mais c'est dire que toi, tu es peut-être, tu es peut-être souple dans ta pratique, et moi, je pratique mieux que toi. Et tu penses que ce que j'ai fait là, est hors la religion. Tel n'est pas le cas. Donc, je vous invite entre vous d'observer, c'est-à-dire de vivre ensemble, car vous êtes encore dans la phase primitive. Si vous éclatez aujourd'hui, si vous dispersez aujourd'hui, c'est-à-dire que les chrétiens qui sont dans les écoles là, les confessions de religion là vont vous dominer. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à collaborer ensemble et à fermer les yeux sur certaines erreurs. Les erreurs qui ne sont pas aussi graves, mais appeler les savants là d'intervenir, l'intervention des savants pour vous élucider certaines vérités. À la grâce de la subhanahu wa ta'ala. Non, salam alaykum wa rahmatullah.
Ok, donc ça c'est pour contre docteur. Nous avons un dernier intervenant, qui est ici, on le frère Amadou Maïka. Amadou Maïka, c'est suivant.
Salam
alaykum. Salam wa rahmatullah.
Merci pour la parole. Pour être un pays laïque, alors que nous savons qu'en Islam, l'acte a une intention et un affaire. Et que l'affaire dont vous venez de parler est en intention islamique. Maintenant, je dis, comme l'idée de l'école dans le sens de l'affaire,
non.
Alors que nous savons qu'en Islam, l'acte a une intention et l'affaire. Mm-hmm. C'est que l'affaire dont vous venez de parler est véhiculée par l'intention islamique. Maintenant, comment utiliser l'éducation enseignée par nos écoles dans le sens de l'affaire que vous venez de parler?
L'enseignement dispensé aujourd'hui dans les écoles, oui. L'enseignement classique là, laïque là. Oui. Alors qu'on est musulman, on veut vivre notre réalité religieuse, oui, dans un environnement laïque. Voilà. C'est ça? Oui. Bon. L'enseignement laïque là, pour servir sa religion. Servir sa religion. D'abord, nous prenons pour quoi? Nous prenons pour les écoles confessionnelles. Je ne suis pas d'accord qu'un enfant musulman parte dans une école laïque. Ça, c'est révolu. Nous sommes en train d'avancer maintenant. Le 21e siècle au Burkina Faso. Le 22e siècle là, nous voulons que les musulmans construisent des écoles confessionnelles. En Grande-Bretagne, même la Sorbonne là, à l'origine, fut une église. Avec une mission déterminée. C'est pourquoi Taha Hussein a fait son doctorat là-bas, il est revenu pervers en Égypte. Ces écoles là ont des missions. Il n'y a pas de laïcité. Hein? Laïcité là, c'est pas en trompe. Non, il n'y a pas. Personne n'est laïque. George Bush, lorsqu'il partait attaquer l'Irak, il a dit que les croisades ont commencé encore. Il a demandé à ceux qu'on prie dans les églises là, pour les âmes de ceux qui vont mourir en Irak. Il n'y a pas de pays laïque. Actuellement, dans notre cher pays là, l'église est derrière la nomination de tout président. Un président ne peut venir à l'insu de l'église. Le pape même est au courant. Il vient de nommer un archevêque aujourd'hui au Congo démocratique, qui a pris poste hier et aujourd'hui. Parce que le premier là avait fait des déclarations contre le président Joseph Kabila. Et il a été déclaré personnalité non grata au Congo démocratique. Donc le pape au Vatican a des ambassades ici. À travers ces ambassades là, regardez même le coup d'état manqué. Hein? Quand ça choque seulement qu'il part te réfugier dans une église. Là-bas tu as la dissous. Parce que l'église est au courant de toi. Il n'y a pas de pays laïque. Mais la religion chrétienne n'a pas de détails dans sa législation. C'est pourquoi les détails de la vie, là, on a laissé ça, c'est-à-dire à la pensée humaine. C'est la pensée humaine qui va combler les choses-là. Monsieur, à l'origine, c'est la croix. Voilà. Entre Blaise et puis Roch, on préfère Roch. Parce que lui, il est pratiquant. Mais l'autre là était chrétien de nom seulement. Donc l'Église même dit ouvertement aujourd'hui qu'il préfère ce président-là parce qu'il est particulier. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de laïcité. Mais les écoles ont été créées parce que l'Église n'a pas d'enseignement classique à donner aux gens. Il n'y a pas de mathématiques en Église. Le Christ n'a pas eu l'occasion d'enseigner la chimie, les maths, l'histoire, la géographie. Yani, la Bible ne contient pas ces choses-là. Donc forcément, ils ont ouvert ces écoles-là alors que en priorité, les premiers missionnaires étaient les anciens et les professeurs des écoles. C'est pourquoi les Senghors là, les Nazi Boni, les Jerky Zerbo, tous ces gens-là ont été baptisés par l'Église, assistés par l'Église avant qu'ils deviennent des personnalités grandes. Obama, sa famille est musulmane, mais lui, c'est l'Église qui l'a récupéré, vu son intelligence, pour le préparer pour qu'il soit président d'un pays. n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité. C'est pourquoi l'école est à l'origine de notre perversion aujourd'hui. Non. Le fait que l'islam ait reculé beaucoup là, c'est l'école qui est à l'origine. Nous, on connaissait cela. Parce que le blanc a dit, il y a un livre intitulé « Rara al-alam islami »« Règle sur le monde musulman ». Un chrétien même qui a écrit ce livre-là. Le rôle de l'école pour effacer les traces de l'islam. Et le jour où le pape a appris que les Égyptiens ont accepté d'amener leurs enfants à l'école classique, ce jour-là, il a fait des fêtes comme ça au Vatican. Il a dit que c'est maintenant on va les coloniser. Parce que la colonisation militaire n'est pas une colonisation. La colonisation physique, là, non. Mais la colonisation, coloniser l'âme de quelqu'un, coloniser la pensée de quelqu'un. Il est à Ouara 2000, il ne parle plus le Samo, il ne parle plus le Moré, il ne parle plus Fulfulde. Maintenant, il est devenu blanc. Il mange comme le blanc, il dort comme le blanc, au lui-même avec sa femme, il fait comme le blanc, il vit partout comme le blanc. S'il devient président, il coopère avec le blanc. Et c'est vrai, c'est comme ça que j'ai préparé. Dans le livre là, tout a été dit. Pour que les élites le viennent un jour, hein, il suffit de dicter seulement quelque chose, ils prennent. Parce que c'est un professeur. C'est le professeur là qui est en France. C'est lui qui te dicte. C'est lui qui t'a enseigné. Tu es devenu quelqu'un comme ça. Donc en réalité, c'est pourquoi nous, en tant que musulmans, nous prenons, c'est-à-dire pour un autre type d'école qui consistera à faire quoi? Alors, à apprendre aux musulmans sa religion et l'école classique en même temps. Donc aujourd'hui, cette année même, dans le Hikma, nous sommes ici, ils vont faire la clôture. Ça, c'est le mouvement sunnite. Il y a eu combien de succès là? Au CEP, il y a presque une poignée de conseils qui n'ont pas eu de CEP. Des réussites. L'État même demande comment vous apprenez l'arabe et la religion à vos enfants et ils battent aussi le record dans notre domaine. Ils ne savent pas que le Coran laisse la bénédiction. L'enfant qui va mémoriser la Fatiha là, il aura une autre, les autres là, la grande ouverture maintenant pour assimiler les autres connaissances. Donc les musulmans aujourd'hui, prendre ton enfant, l'amener à une école classique, laïque là, pour qu'il devienne laïque, pour qu'il soit musulman dedans et ne prie pas et ne connaît rien de sa religion là, non, nous on ne veut pas plus ça encore, de toute façon. C'est pourquoi je veux qu'on fasse une conférence de presse pour sensibiliser les gens. Parce que dans les écoles, l'école même a montré ses griffes maintenant. Ils sont en train de taper fort sur la barre, taper fort sur le voile. L'école a montré son vrai visage maintenant. Elle n'est pas laïque. Elle est plutôt contre l'islam. Par contre, hein, moi je suis parti le Saint-Camille de Ouagadougou. On dit de ne pas les signes ostentatoires, que de ne pas les montrer dans les lieux publics. Hein? Quand la musulman porte le voile, ça veut dire que c'est ostentatoire, le pays, l'espace public là, pour tout le monde. Alors toi, tu affiches ta religion devant les gens. Que ça nuit à la laïcité du pays. Et je vois. Alors que elles sont permises de porter, hein, les trucs, porter la croix, hein, soigner les gens. Ça, on affiche ça. Il y a un débat houleux au Parlement français, Noël passé là. Alors, quelqu'un qui a dit que vous avez dit d'interdire les signes ostentatoires dans les lieux publics. Alors, maintenant, l'arbre de Noël là. L'arbre de Noël est devenu vulgaire. C'est partout. Alors, donc, ils ont fait des débats conçus dans le Parlement. On avait pensé que peut-être ils allaient prendre des mesures contre ça. Ah non, tout de suite, ils disent que non, ça c'est une exception. Ils ont passé ça. Vous voyez? Donc, alors, ça c'est mon dernier mot. L'enfant musulman, si vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont dans la perdition, ils ne connaissent pas la Fatiha, ils ne connaissent pas Shahada, ils connaissent rien de leur religion. C'est dû à quoi? L'école est à l'origine. Alors pour ce faire, aujourd'hui, alors je pense qu'il y a des initiatives des écoles franco-arabes, il y a des écoles françaises d'obédience professionnelle où on peut dispenser des instructions religieuses, non, avec quelques rudiments de la langue arabe. Tout ça c'est possible aujourd'hui pour accompagner les enfants, car le conflit, le choc des civilisations a commencé. Le choc des civilisations a commencé. Il faut préparer ta civilisation pour qu'elle soit forte. Sinon, dans le choc, elle va s'effondrer. Non, en Italie aujourd'hui, ce sont les populistes qui sont au devant. En Grèce, populistes. Autriche. Populiste, on dit populiste, là, ce sont les extrémistes là. On les a donné un joli nom pour ne pas les terminer dans l'image. Populisme, là-bas, c'est quelqu'un qui dit non à l'islam, non à l'immigration, non à quoi. De non, 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 là. On appelle ça comme ça. C'est ça qui, ceux-là qui sont en vogue. Ils sont en train de consolider leur position. Mais toi, on t'a flatté de laïcité. Il ne faut pas être laïque. Laïcité veut dire pas de religion. Alors toi, tu es religieux. Tu es musulman, va apprendre où est la religion. Va apprendre où il y a la religion. La religion bonne, hein? La religion qui est bonne, là. Par exemple, le choc de la religion a commencé. Nous sommes appelés aujourd'hui à diriger un jour ce pays-là. Nous sommes appelés à diriger ce pays-là. Pendant la transition, alors lorsqu'on a demandé, vous musulmans, vous dites ça parce que vous êtes marginalisés. Montrez-nous quelqu'un qui peut diriger ce pays-là dans la transition. Donnez-nous un nom. Ils ont pensé à Abakar Sana. On a dit que non, lui, il ne comprend pas le français. Le pays est francophone. On a donné des noms comme ça qui étaient incompatibles avec la situation. Donc, ils nous ont dit que nuit et jour, ils travaillent dans l'esprit comme ça pour sauver la situation. On n'a pas trouvé un musulman qui pouvait, en tout cas, nous représenter. Sauf quelqu'un qui était à Ouïghia, qui était un retraité, qui était en mesure, en tout cas, de représenter bonnement les musulmans, et lui aussi, en cet instant-là, ils avaient perdu son adresse. Ils ont cherché en vain, ils n'ont pas trouvé. Donc Michel Kafando, on l'a poussé comme ça. Par hasard, il est venu, il a pris la direction du pays. Donc préparez-vous. Préparez-vous avec les deux armes là. Les deux armes. Tu as ça, il dit ça, tu as ça. Et en même temps, tu as ta religion. Non, tu as ton tapis au service. Tu as ton Coran en poche au service. Pour que le service sache que, ah, il y a un islam. On ne s'amuse pas avec lui là. En ce moment, il y aura moins de corruption. Et c'est la paix. Parce qu'on n'a pas pu tout développer. Hein. Quand un musulman prend le pays là, il y aura moins de corruption. Il y aura moins de mal. Parce que lui va donner aux minorités leurs droits. Alors que nous qui sommes majoritaires là, nous n'avons pas notre droit. La majorité n'a pas ses droits ici. La grande majorité là a les droits bafoués dans ce pays. Donc je m'arrête là pour ne pas être politicien. Et qu'Allah nous assiste toujours. Okay, Allah, s'il vous plaît, avant de partir. Nous arrivons à la fin donc de cette communication qui était très très profitable pour nous tous. Nous allons donc remercier le docteur Ahmad Abdussalam pour sa disponibilité. Et qu'il a toujours répondu présent pour nous éclairer sur cette sujet-là. Nous prions alors Ta'ala qu'il reste là dans la balance des bons actions matérielles et qu'il le cas longtemps parmi nous. En nous qui avons écouté également, nous devons être parmi ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Alors que nous allons pratiquer ce que nous avons entendu, alors cela nous sera profitable. Et si nous sortons d'ici et que nous oublions ce que nous avons entendu, nous faisons ce que nos âmes nous commandent de faire, alors nous allons emprunter le chemin de l'égarement. Donc que Dieu nous en préserve. Donc cette communication va s'arrêter là. Mais donc le séminaire continue. Inch'Allah, on va prendre un petit programme avec les organisateurs. Et on va se retrouver peut-être, Inch'Allah, pour une autre séance. Puis un peu plus d'un autre thème, pour profiter donc de la connaissance de nos savants, Inch'Allah. Donc alors, là, il nous accorde dans toute séance, qu'il nous pardonne en nous tous nos péchés, et qu'il fasse de nous tous des croyances sincères et pures. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah.